Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, mardi 2 mars 2021, bienvenue à l'émission. On va parler de la violence familiale dans le cadre de divorce à midi. Et à 11h, on va revenir sur les cerfs de Longueuil. Est-ce que ça va être des steaks ou est-ce que ça va être des animaux en liberté? On va le savoir à 11h. Mais tout d'abord, Loïc Tassé est avec nous. On va le retrouver tantôt à midi et demi. Mais je voulais faire une espèce de bilan des nouvelles chinoises parce qu'il y en a sans arrêt. Loïc, bonjour.
Bonjour Benoît.
Et juste rappeler aux gens que toi, la Chine, tu connais un peu ça, tu as même habité en Chine.
Oui, j'ai passé 4 années en Chine, à l'Institut des langues de Pékin, et puis ensuite à l'Institut d'études économiques de l'Université de Pékin, quand je faisais mes études de doctorat. Donc oui, je connais très bien ce pays, c'est ma spécialisation originale, ouais. Même si je suis spécialiste en relations internationales aussi, politologue, etc. J'ai beaucoup de chapeaux, mais je me suis beaucoup intéressé à la Chine.
Et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, quand on était aux frontières, on t'avait invité, parce qu'on voulait parler de l'importation des cochonneries chinoises chez Dolorama. Je ne sais pas si t'en
souviens,
mais c'était
bien.
Ça. Alors, d'abord, Loïc, il y a un paquet de nouvelles. Là. J'aimerais ça qu'on passe à travers un paquet de nouvelles pour comprendre, parce que je trouve la Chine est omniprésente dans l'actualité. D'abord, j'apprenais aujourd'hui là, que la Chine a dit fournir des vaccins à 53 pays, en exporté à 27, et on a vu des images là, d'un cargo qui débarquait aux Philippines, et c'était des vaccins offerts par la Chine. Est-ce qu'il faut le vaccin va devenir un outil de propagande?
Oh, c'est déjà un outil de propagande. L'aide chinoise est un outil de propagande depuis longtemps. Les Chinois donnent de l'aide aux pays amis, beaucoup aux pays qui sont intégrés dans les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, qui sont ces grands réseaux commerciaux qui sont contrôlés en grande partie par la Chine. Donc oui, la Chine donne des vaccins aux pays qui sont ses alliés. Elle en donne au Venezuela, elle en donne au Pakistan. Il y en a même en Hongrie qui sont fournis par la Chine. On en reparlera peut-être plus tard à 12h35. Mais effectivement, la Chine se sert du vaccin comme d'un outil de propagande, et c'est un vaccin qui fonctionne bien. Donc, les gens sont très heureux de recevoir ce vaccin chinois.
C'est pas le vaccin qu'on était censé recevoir, nous autres, au Canada, au mois d'août passé?
Oui, on devait en le recevoir, on travaillait là-dessus, mais le problème avec la Chine, et c'est un véritable problème, c'est que le gouvernement chinois, et il faut pas parler de la Chine, il faut parler du gouvernement de Xi Jinping, qui est un dictateur assez affreux, et c'est un homme qui ne supporte pas qu'on le critique, qui ne supporte pas que l'on refuse d'obéir à ses décisions, à ses dictats, et qui punit très facilement non seulement les gens en Chine, mais qui a la prétention aussi de punir les pays à l'extérieur, chaque fois qu'on refuse quelque chose à son gouvernement. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, les relations entre le Canada et la Chine sont mauvaises à cause des deux Michael, à cause de l'affaire Huawei. Et donc, pour cette raison-là, le Canada n'a pas pu participer comme il le devait aux recherches pour le vaccin chinois. Et on n'a pas le vaccin chinois pour cette raison-là.
OK. Donc, la Chine ne fonctionne pas par compartiment, là. C'est t'es avec nous ou t'es contre nous, puis on va te traiter comme tel.
C'est une superbe question que tu poses là, parce qu'en fait, quand on négocie avec la Chine et qu'on lui demande quelque chose, on lui dit, vous avez fait telle chose dans tel domaine, donc dans tel autre. Ah non, c'est pas la même chose. Il faut tout compartimenter. On ne peut pas tout négocier ensemble, vont-ils te dire. Mais eux, par exemple, quand ils négocient avec toi, eux, ils mettent tout ensemble dans le même sac.
OK. Ce qui se passe à Hong Kong aussi, Loïc, ça pose des problèmes face à ce que... Parce que la Chine avait promis, quand ils se sont réappropriés le territoire d'Hong Kong, je pense en 1997.
Pour 50 ans, ils ne devaient pas s'occuper des affaires internes. Ils devaient s'occuper simplement de la sécurité, au sens international du terme, et ils devaient s'occuper, enfin la police aussi, un peu, la sécurité et la politique extérieure. Mais ils ont profité d'une loi sur la sécurité pour s'ingérer grossièrement dans les affaires interne de Hong Kong, à tel point d'ailleurs qu'on vient d'apprendre qu'il y a une loi qui va être déposée à Hong Kong cette semaine, une loi qui interdirait aux partis qui sont des partis démocratiques de se présenter aux élections. En fait, on va faire en sorte que, un peu comme le Parti communiste chinois régnait en Europe de l'Est, dans les parlements d'Europe de l'Est, on va essayer de faire en sorte que ce soit des satellites du Parti communiste chinois qui règnent à Hong Kong même, et on va empêcher donc les démocrates de présenter des candidats. Donc, on fait main basse sur les élections. Et ça, c'est très grave parce qu'en fait, la Chine ici montre que, d'abord, elle déteste la démocratie, on le sait. Xi Jinping en particulier, hein, je dis la Chine, mais il faut se souvenir que c'est Xi Jinping qui agit comme ça. Il viole un traité qu'il avait signé avec le Royaume-Uni, parce que, encore une fois, ce traité disait que la Chine ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires de Hong Kong, et ça montre ce que veut la Chine à plus long terme. La Chine rentre dans les affaires internes d'autres pays, on le sait, ils font ça en Afrique, ils font des pressions, par exemple, avec les médias, et même si l'Afrique n'est pas très démocratique, les pays africains ne sont pas très démocratiques en général, mais ils vont toujours dans le sens du soutien de régimes très autoritaires et de la destruction, malheureusement, de valeurs démocratiques à travers le monde.
Il y a aussi l'autre nouvelle, écoute, là, vraiment, on manque de temps, il va falloir le refaire, Loïc, mais les experts de l'Organisation mondiale de la santé qui étaient à Wuhan, où sont-ils? Où est le rapport? Il paraît que l'enquête est terminée. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît la confusion?
Le rapport officiel n'est pas sorti encore, mais ils se sont exprimés en disant que, oh, ben non, mais de toute façon, ça venait probablement pas des chauves-souris, on n'en sait trop rien. Ils ont dit que, oui, l'hypothèse que ça vienne d'aliments congelés était très forte, et c'est ce que, d'ailleurs, le gouvernement chinois voulait, exactement. Alors, donc, ces gens ont tout à fait adopté le discours du gouvernement chinois, ce qui est assez scandaleux, et on sait que le dirigeant qui est à la... Enfin, l'OMC est pas mal entre les mains... L'Organisation mondiale de la santé, pardon, est pas mal entre les mains du gouvernement chinois. Et donc, on sait que ces experts n'ont pas eu accès à un certain nombre de données. On sait que les témoins qu'ils ont interrogés étaient des témoins qui avaient été auparavant vus par les autorités chinoises et on leur avait dit quoi dire, quoi répondre. Donc, c'est une enquête totalement bidon. Et la Chine, ce qu'elle ne veut pas, la Chine, c'est qu'on parle d'un virus chinois, d'un virus de Wuhan. Ce qu'elle ne veut pas, c'est dire que le virus vient de Chine, que ce virus est arrivé parce que les Chinois ont été négligents dans leur façon de le contrôler, ce qui semble bien. Et encore moins que c'est possiblement aussi un accident, c'est-à-dire que ce virus était dans les laboratoires et que par négligence, probablement, il s'est échappé. Ce qui est quand même une hypothèse qui demeure une hypothèse forte encore. Donc, les Chinois sont très contents parce que, effectivement, les enquêteurs ont été ont laissé tomber ce genre d'hypothèse.
OK. Et avant qu'on se quitte, Loïc, cette histoire de détention arbitraire, là, c'est François-Philippe Champagne qui a fait signer une cinquantaine de pays à travers le monde pour protester contre la détention arbitraire.
C'est beaucoup, ça, du Canada.
Oui, mais ça se tourne contre le Canada parce que je voyais la propagande chinoise dire, oui, eh bien, que le Canada libère immédiatement Meng Wanzhou de Huawei, si vous voulez.
Oui, mais c'est pas arbitraire du tout. Ici, on a un état de droit. Le système de justice est complètement séparé du système politique. Puis quand les politiciens ont l'audace d'essayer de faire quelque chose, on se souviendra par exemple que Jean Charest, quand il était ministre à Ottawa, avait téléphoné à un juge. Il a perdu son poste de ministre, je pense qu'il était ministre de l'Environnement. Le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça, tout de suite, il y a une séparation complète. Pas en Chine, au contraire. En Chine, la justice est complètement incorporée au gouvernement et pour dire plus justement au Parti communiste chinois. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, on n'est pas dans un système qui est un système de droit vraiment. C'est un système arbitraire. Et puis, Mme Meng Wanzhou, elle est dans un château dans des conditions extraordinaires. Elle a un bracelet à la cheville, mais les deux Michael sont dans des cellules en isolement avec la lumière ouverte 24 heures sur 24, des repas moche, tu sais, ils ont le droit de sortir une heure par jour. Wow.
Et sans parler des Ouïghours.
Ils n'ont pas d'avocat, puis ils n'ont pas le droit de parler à leur famille, puis
ouais.
etc.
Ouais. Et sans parler des Ouïghours.
Ah, ben là, c'est une autre question. Est-ce que tu veux que je parte sur les Ouïghours?
Non, on n'a pas le temps. mais on va refaire l'exercice, parce que c'est important là, de décoder la nouvelle à propos de la Chine, qui a une influence extraordinaire sur la réalité, même canadienne, là, sur la nôtre.
Oui, oui, puis les Ouïghours, on pourrait en parler, il faut en parler pendant longtemps, parce que ça va revenir. Puis il y a toute la question des Jeux olympiques, est-ce qu'on doit boycotter les Jeux olympiques de Pékin? Il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver que le régime de Pékin, le régime de Xi Jinping, devient passablement dictatorial, et que ça commence à devenir un peu malséant de se présenter à ces Jeux-là, parce qu'on sait que ça va servir à la propagande chinoise, en plus, à travers le monde.
Xi Jinping, je vais apprendre à le prononcer comme il faut.
Oh, bon. Tu le prononces bien?
Oui, merci. On se reparle à à midi et demi, Loïc.
C'est ça.
Merci. À tantôt.
Culture et société.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Anaïs Gastin-Lacroix nous propose Serge Gainsbourg aujourd'hui. Anaïs, bonjour, ça va?
Allô?
Es-tu en train de battre des œufs? T'es-tu en train de faire un gâteau? Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que t'entends du son derrière moi?
Oui, oui, c'est pas grave.
Ah, c'est... En fait, j'ai un bébé chien, puis là, je tente de le dresser au moment où je te parle. Benoît, c'est la beauté de travailler à la maison. Donc, c'est ça que je vis au moment où je me fais mordre.
OK, mets-le dans sa cage pour les 10 prochaines minutes.
C'est ça que j'essaie, t'inquiète. OK, Serge Gainsbourg, Benoît, qui nous a quittés le 2 mars 1991. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler, mais évidemment, c'est Gainsbourg. Mais ce qui est particulier quand on lit sur Serge Gainsbourg, et j'ai vraiment commencé à lire sur lui, Benoît, ça fait peut-être une semaine de ça, en entendant parler de lui régulièrement, puis ça a vraiment été un homme qui était très timide, hein? C'est ce qu'on oublie, cet homme-là qui a fait les beaux-arts, qui a été peintre pendant une trentaine d'années, tu sais, c'est vraiment, c'était un artiste avant de devenir ce poète très fraîchier, qui avait toujours l'air d'avoir les dents et les ongles sales, qui ne faisait que fumer la cigarette, mais c'est quand même un personnage. Toi, j'aimerais ça t'entendre sur Serge Gainsbourg, est-ce que tu l'aimais comment?
Non. J'ai jamais compris Serge Gainsbourg. J'ai jamais compris l'attrait, ni pour sa musique, ni pour sa voix, surtout pas sa voix, ni pour sa gueule, ni pour sa personnalité médiatique. J'ai jamais compris ça. Je me souviens de l'entrevue que Julie Snyder avait faite. Ben, elle était drôle, là, cette entrevue-là. Elle était bonne, là. Julie Snyder, là-dessus, avec son sac brun sur la tête. Je disais, c'était vraiment drôle. Mais Gainsbourg, je l'ai jamais compris.
Je n'ai jamais embarqué dans son personnage comme toi, je le comprends pas, mais en même temps, je me dis, il a tellement marqué l'histoire de la musique française qu'on n'a pas le choix de parler de cet homme-là, tu comprends? Puis même cette semaine, dans Les Incorruptibles, on se posait la question, pouvons-nous encore, à ce jour, chanter Gainsbourg? Parce que lui, là, la misogynie était mise de l'avant. On se rappelle qu'il avait raconté ses histoires de sexe avec des animaux. Tu sais, c'était vraiment un homme qui voulait, et pas à peu près, faire réagir les gens. Donc là, j'ai sorti un top 5 des moments télé où il a suscité de la controverse. Et Benoît, ce qui est fou, là, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Hein, on n'était pas dans les gros buzz. Maintenant, tout devient viral. Mais Serge Gainsbourg réussissait, lui, dans les années 80. On savait que quand on l'invitait sur un plateau de télé, il allait être un peu chaud d'ail, ça allait sentir la cigarette pendant les 3 prochains mois et il y avait des chances qu'il traite quelqu'un de pute. Donc,
T'avais l'impression qu'il connaissait pas l'utilisation du déodorant.
T'sais, non! Il devait toujours avoir un haleine de fond de café. Oui. Moi, tu comprends, c'est la dernière personne que j'aurais frenché sur cette planète Terre, pour être honnête. Là. Il m'écœurait un peu. Désolée pour les femmes qui le trouvaient sexy.
Non, on parle en mal d'un mort. Là. C'est pas le fun. Là. C'est pas gentil.
OK, non, ça. Mais attendez. Je s'enlève absolument rien à son apport dans la musique. Mais là, c'est ça. Dans les moments de controverse, s'il y a une personne sur la Terre qui dit à Whitney Houston « I want to fuck you », désolée d'avoir dit cette phrase en onde, c'est Serge Gainsbourg. Et je te fais entendre cet extrait de télé assez mémorable.
He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça, en gros, que tu voulais dire.
Nah. Oui. You are not Reagan. I'm not Gorbachev. So, don't try, hein? I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non.
Benoît!
Mais non, ça n'a pas d'allure.
Hey, là, t'as Michel Drucker qui patine, qui pédale, qui fait tout ce qu'il peut pour sortir, pour faire en sorte que cette situation-là va paraître comme anodine. Et là, t'as Whitney Houston qui est belle comme le jour, maquillée à côté, t'as Serge Gainsbourg. C'est un moment de télé fabuleux. Ça, c'est en 86. Et moi, mon préféré en 86 aussi, l'extrait dure une trentaine de secondes, mais je pense que ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la fin. C'est dans une entrevue, une discussion avec Catherine Ringer, donc Rita Mitsouko, elle qui avait déjà fait de la pornographie. Et il la traite littéralement de pute. Et là, celle-ci répond en disant qu'il a l'air sale. Tout est parfait dans cet extrait-là.
On l'écoute. Okay.
L'ingénieur du son, il râle parce qu'on comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites.
Vous allez prendre deux baves dans la gueule, ça va être vite fait.
OK.
Vous êtes une salope et vous êtes une putain.
Benoît!
Ouais. En plus, vous allez vous prendre deux baffes dans la gueule. Écoute.
Tout est là. Ça, mon zénith à moi sur Canal+. En quelques secondes, salope, pute, je vais vous frapper. Elle qui le traite de dégueulasse.
Sais-tu ce qui m'a toujours étonné là-dedans? C'est qu'il n'y a pas un homme à côté qui se lève et qui te l'accroche pour dire « Hey, toi, là, tu vas sortir sa tête. »
Mais ça faisait partie du personnage. Moi, j'ai vraiment cette petite... On s'attendait à ça de lui. Puis ce qui est particulier, c'est que Catherine est à côté, puis elle rit, là, puis elle n'est pas du tout... elle tombe pas à terre de se faire traiter. C'en est presque un compliment venant de la part de Serge Gainsbourg.
Ou c'est un numéro préparé, là.
Ben, c'est presque ça. Honnêtement, on s'attendait à ça de lui. Ouais. Lemon Incest, ça, c'est, je vais t'avouer, c'est la chanson qui suscite vraiment un malaise quand on l'écoute. Même en 85, quand il est sorti, on va se rappeler qu'il a chanté ça avec Charlotte Gainsbourg, qui avait 13 ans. Dans le vidéoclip, je regardais ça tantôt, elle qui est étendue sur un lit presque nu, lui qui est par-dessus elle, ça n'a juste aucun sens. Donc, je te fais entendre un extrait.
L'amour que nous sommes ensemble est le plus beau. Le plus violent, le plus pur, le plus enivrant.
Sacramouille!
Bon, la chanson est mauvaise.
C'est cœur, hein? Voyons donc.
Ça n'a pas de sens. Puis l'amour violent d'un père, c'est « Papa, je t'aime ».
Non.
Benoît, tu sais, voyons donc.
Non. Je comprends la liberté d'expression, là. Je comprends. Mais faire la promotion de la pédophilie, c'est en bas de la liste.
Absolument. Puis tu sais, c'est en 85, dans les années 70 en France, il y a des artistes qui faisaient vraiment l'apologie presque de la pédophilie. Et dans les médias, même parfois, il y en a qui racontaient avoir frenché une jeune fille, une jeune femme, c'est même pas ça, c'est un enfant de 5 ans. Mais je veux dire, par la suite, en 85, encore à ce jour, et là, tu vois, je la comprends un peu là dans Les Incorruptibles, l'article disant, est-ce qu'on peut vraiment écouter Serge Gainsbourg? Moi, cette chanson-là, Lemon Incest, c'est un nom du début à la fin. Puis sinon, ben il y a aussi la fois qu'il a brûlé le fameux 500 francs sur un plateau de télé. Encore là, c'est ça, c'était du bonbon à voir. On écoute ça.
Je vais vous dire ce qui m'arrête. C'est bien que ça, c'est illégal ce que je vais faire.
C'est illégal, oui.
C'est illégal. Je vais le faire. Je suis mon fantôme, je n'ai rien à cirer. Je serai au moins en régime. Voilà. Je vais vous dire ce qui m'arrête. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire et tout.
Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça?
Ah, écoutez, c'est mon pognon. Voilà ce qui me reste. C'est ça. Ce qui me reste.
Benoît, il y a le journaliste Jean-Louis Burga. Lui, c'est sûr qu'il s'en souvient encore, là, je veux dire. Il est là avec son cravate. Hein.
Mais ça, tu vois, ça, je trouve, c'est de la provocation qui est intéressante.
Ben oui, ça de brûler de l'argent. Ouais. Disant, écoutez, avec le fisc, les impôts et tout ça.
Voici ce qui me reste.
74%. Ouais. Exactement, ça, je trouve ça intéressant, mais ça reste que Serge Gainsbourg, écoute, on aurait pu faire une chronique, je pense, de 8 ans. Puis c'est ça. Ça a été 10 ans, hein, son personnage, vraiment, qu'on a aimé détester. 10 ans seulement, puis ça nous fait oublier tout le côté peut-être plus poétique qu'il a pu faire de son enfance. Mais bon. Je l'aurais pas frenché quand même. Désolé.
Il y a 30 ans, il n'aurait pas fallu non plus, hein? Tu sais, vraiment, non. Là. Il y a 30 ans, il est mort à quel âge?
Il est 62 ans, très jeune. Puis j'aimerais ça, à ce jour, si Serge Gainsbourg est encore parmi nous, on revoit Gérard Depardieu accusé de viol. On est dans une autre époque quand la société a vraiment changé. Donc lui, j'aurais aimé, le voir, répondre. Maintenant, en 2021, répondre de ses actes, voir est-ce que justement il aurait changé. J'imagine qu'il aurait évolué avec la société. Mais regarde, on le saura jamais. Non. Puis ça reste un monument de la musique française.
Très bien. Et la cigarette ne tue pas, de toute évidence. Hein?
Non, Gainsbourg. Tout
mort à 62 ans. Alain Bachung, 61 ans. C'était pareil, là. C'était des fumeurs de cigarettes. Pensez-y si vous voulez vous mettre à fumer. Ça vaut peut-être pas la peine. Anaïs, merci pour cette chronique sur Serge Gainsbourg.
Salut, à demain. À demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez
Dutrisac.
Cube Radio.
Il y a 10 jours, je recevais Éric Dussault, qui était directeur général, qui est toujours directeur général de Sauvetage Animal Rescue, et qui avait comme projet de déplacer une quinzaine de cerfs de Virginie du parc Michel Chartremplay. Il m'expliquait que son entreprise n'avait pas reçu l'approbation d'un comité Université de Montréal qui émet des certificats pour obtenir un permis de déplacement de ses cerfs. Et le Jean-Pierre Vaillancourt, qui est prof titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire et président du comité d'éthique de l'utilisation des animaux de l'Université de Montréal, nous a écrit et dit « il y a des correctifs à apporter ». Monsieur Vaillancourt est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, expliquez-nous, je suis content de vous avoir au bout du fil, là, parce que là, si, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'image globale de la situation au parc Michel Chartrand. Peut-être que c'est un dossier qui prend trop d'ampleur, là, mais il y a une trentaine de cerfs de Virginie. Je suis allé les visiter. Ils sont très beaux, ils sont très sympathiques. Vous, M. Vaillancourt, d'abord, votre mandat, c'est quoi exactement?
Bien, nous, notre mandat, c'était de regarder un protocole pour déplacer des cerfs. Et puis de déterminer si le protocole était acceptable d'un point de vue santé, bien-être animal et sécurité à la fois des animaux et des êtres humains.
OK, ça, c'était le protocole que vous a soumis Sauvetage Animal Rescue qui a été mandaté par la Ville de Longueuil.
C'est ça.
OK. Et votre conclusion, ça a été quoi?
Ben, c'est un protocole qui était inacceptable. C'était même pas... vous savez, des fois, quand on reçoit des protocoles, on va des fois poser des questions, on va demander des ajustements. On peut même dire, vous pouvez faire un test, un pilote, si on peut dire, comme déplacer un animal ou deux pour voir si ça va bien, tout ça. Alors, quand des fois, la situation c'est pas mal, ça semble être correct, mais on veut faire attention, on peut faire des choses de même. Mais dans ce cas-ci, le protocole était tout à fait inacceptable.
Mais qu'est-ce qu'il y avait, M. Vaillancourt, d'inacceptable dans le protocole présenté par M. Dussault?
Tout était la capture, la sédation, la contention, le transport et le lieu où ils veulent mettre les cerfs. Alors, le lieu où ils veulent mettre les cerfs sont peut-être acceptables, mais on n'avait pas d'informations là-dessus critiques, là, du genre, est-ce qu'il va y avoir un suivi vétérinaire, est-ce qu'ils ont une quarantaine, un lieu pour faire les quarantaines qui sont acceptables. Tout le reste, là, toutes les étapes, c'était inacceptable. De procéder comme ils voulaient le faire avec le type d'enclos qu'ils voulaient utiliser, c'était un enclos inadéquat autant au niveau de la structure qu'au niveau de la hauteur. Okay? Ils proposaient 8 pieds, un cerf qui est motivé peut sauter 8 pieds. Il proposait de mettre des appâts en plein milieu ou quelque part là-dedans pour attirer des cerfs. Le problème, c'est qu'il va attirer des ratons laveurs puis un tas d'autres animaux qui fait que c'est difficile d'attirer un cerf là-dedans. En fait, les cerfs, c'est des animaux sociaux, si on peut dire. Ils se tiennent en groupe. Et là, l'idée d'en isoler un, c'est à peu près impossible dans le type d'enclos qu'il voulait faire.
C'est un enclos au parc Michel Chartrand.
Ben c'est un enclos qui était pour louer en fait l'équipement pour créer cet enclos-là pour une période. C'est pas un enclos qui existe là.
Non, je comprends. Mais en même temps, M. Vaillant, moi, je suis allé avec ma famille, une partie de ma famille,
ouais.
Et ils sont là, les serres, là. Tu sais, on les voit, ouais. ils sont pas farouches. Les gens les nourrissent même. Je veux dire, ça, il me semble, ils sont vraiment, vraiment habitués à l'être humain, là. Est-ce que c'est si difficile de capturer un cerf et de le déplacer?
Oui, c'est excessivement difficile. Puis oubliez pas là qu'à minuit le soir, parce qu'ils comptaient le faire à partir de 11h le soir. Alors, en pleine nuit, un cerf peut faire la différence entre la petite Julie là qui arrive avec son quartier de pommes, puis un bonhomme d'une forte taille, habillé, tout équipé pour tirer là. Et ce cerf-là a beau être, il est pas domestique, mais disons, il est, comme vous dites, il est pas farouche. Mais dans les circonstances dans lesquelles on aurait placé ces cerfs-là, ils auraient paniqué et seraient rentrés à pleine vitesse ou en tentant de sauter par-dessus la clôture ou passer à travers la clôture, avec des risques de blessures quand même assez spectaculaires. Et entre autres, ils voulaient avoir quelqu'un pour manuellement fermer l'enclos. Un cerf, là, un enclos de 100 pieds, un cerf, ça, c'est 5 bons. Et puis un cerf qui panique va vous rentrer dedans sans hésiter. Alors c'était vraiment des puis en plus de ça, tirer un cerf à une quinzaine de mètres, là, la probabilité de toucher la cible là où il faut, quand même pas évident, là. Alors, ils auraient sûrement eu à tirer à plusieurs reprises, ils auraient fait paniquer l'animal. Il y avait, écoutez, on a ces 63 questions ou commentaires qu'on avait par rapport à ce protocole-là. Qui faisait que c'était vraiment inacceptable.
Il disait, M. Dussault, M. Vaillancourt, à votre sujet, que ça avait pris 5 mois avant d'avoir les détails, justement, là, ce questionnaire et ses commentaires.
Oui. Bien, écoutez, moi, là, je ne connaissais pas M. Dussault ou son organisation. Puis cette organisation-là, au fait, personnellement, moi, je trouve que c'est brillant. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais professeur aux États-Unis, on avait l'équivalent au niveau de l'État, là. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais M. Dussault, je le connaissais pas. Il nous a soumis un premier protocole le 28 janvier. Il savait qu'on avait une réunion le 17 février. Il nous a soumis des changements au protocole le 15 février. Puis, oubliez pas, là, mon équipe, au mois de février, on avait 15 protocoles à regarder, pas rien que le sien, là. Et là, on a reçu ça le 15 en après-midi. On a envoyé ça immédiatement à nos 18 membres du comité, parce que c'est un gros comité. Et le 17 au matin, on a passé 2 heures, dont environ 45 minutes avec des experts pour discuter de ça. Et le lendemain matin, avant 8 heures, M. Dussault avait un rapport de 5 pages, une chose qu'on fait jamais, ça. Mais on voulait l'aider, ni plus ni moins.
Est-ce que vous l'avez invité à la table parce que le but finalement, ouais. C'est de pas abattre ces cerfs de Virginie, ouais. Là. C'est de pas en faire des steaks. Ouais. Je pense que le but c'est ça. On veut pas tomber dans le syndrome de Walt Disney là où tu peux t'asseoir avec le cerf et discuter avec lui puis jouer aux échecs. Puis en même temps, tu dis pourquoi abattre des animaux si c'est pas nécessaire. Puis en même temps, on a abattu 48 000 des chevreuils cette année. Où est la part de ce qui est raisonnable dans tout ça?
Ben, regardez, l'argument de M. Dussault que ces cerfs-là, c'est pas équivalent aux cerfs qui ont été abattus dans le cadre de la chasse, c'est un argument, je pense, qui est valable, qui est discutable. Effectivement, ce sont des cerfs qui sont habitués à voir les êtres humains. Il y a des gens qui leur ont donné des noms, etc. Alors, de vouloir déplacer ces cerfs-là comme tels, même si ça s'inscrit pas dans une stratégie à long terme, ça peut se justifier. Alors, c'est pour ça qu'on a regardé le protocole dans ce contexte-là. Maintenant, lui dire de s'asseoir avec nous, regardez, c'est pas comme ça que ça marche, là.
Non, mais M. Vaillancourt, c'est parce que vous avez le mandat du ministère, mais lui, il a le mandat de la ville de Longueuil. Puis il me semble qu'au bénéfice de tout le monde, moi, je suis allé avec ma famille, c'est vraiment sympathique d'aller là. C'est sympathique de voir les cerfs, puis de, tu sais, qu'il y a pas, ça donne un sentiment vraiment, vraiment d'être en nature, puis de, fait que y a-tu moyen de s'asseoir ensemble, puis d'être productif au lieu d'être conflictuel, puis de jouer à celui qui a absolument raison. Peut-être vos vétérinaires se trompent, peut-être les siens se trompent.
Non, non.
Y a-tu un moyen d'entente, là?
Non, regardez bien, là. C'est pas une question de... Il n'y a pas de guerre de vétérinaires, au fait, là-dedans, là.
Ben, ça a l'air à ça, là.
Non, ben ça a l'air à ça, mais c'est pas du tout le cas. N'oubliez pas, dans son équipe de vétérinaires, il y a un anesthésiologiste qu'on connaît très bien parce que il a d'ailleurs travaillé à la faculté de médecine vétérinaire. Il a d'ailleurs été membre de mon comité quand il était étudiant en médecine vétérinaire. Donc, il connaît très bien comment ça fonctionne. Alors, lui, ses compétences, on les questionne pas. On ne questionne pas les compétences des autres vétérinaires, sauf qu'il faut savoir que c'est des vétérinaires qui travaillent dans les petits animaux, ça, là. Ça n'a rien à voir avec les cervidés. D'accord? Et puis, on veut travailler avec... D'ailleurs, regardez, ce qu'on a fait est exceptionnel. Mm. OK? Parce qu'on veut aider. Bien, puis moi, j'ai appelé le ministère, puis j'ai dit, regardez, là, où M. Dussault n'a pas tort, c'est qu'il dit, regardez, je reçois des questions du ministère, je reçois des commentaires de ce comité-là. Ça peut aller des fois peut-être dans deux sens différents pour un même point. Ça n'a pas de sens, il faudrait se concerter. Ça, là-dessus, je ne suis pas contre du tout. D'ailleurs, j'ai dit aux gens du ministère, regardez, moi, si j'avais su que vous étiez en train de parler par rapport à ce protocole-là séparément avec M. Dussault, vous aurais invité la réunion pour qu'on se mette. Là, ils m'ont dit, ben, ils vont penser qu'on est de connivence. C'est pas une question de connivence, c'est une question d'avancer dans le dossier.
Okay. M. Vaillancourt, vous et moi, là, on peut s'entendre que la réponse du ministère, c'est une réponse de cabochon?
Non,
je ne veux pas vous mettre dans le trouble, là, mais on essaie.
Non, bon, en tout, regardez, moi, ça me fait pas peur du tout, là, OK? Je suis professeur à l'université, là, Mais l'affaire, là, c'est que le ministère, lui, a dit, bon, d'ailleurs, pour la raison pour laquelle on est impliqué, ils ont dit on va avoir une opinion externe. Maintenant, si M. Dussault avait pu avoir des spécialistes, parce que je pense qu'il a cherché, il n'a pas trouvé, mais s'il avait pu avoir des spécialistes qui savent comment... Parce que là, c'est ça l'affaire. C'est que M. Dussault a une expertise au fil des années pour attraper, je sais pas moi, un chat dans un arbre.
Il est allé attraper des koalas en Australie, là, à la suite des incendies.
Oui, je sais bien. Ben justement. Puis ils l'ont laissé faire parce qu'il y avait des incendies, ils étaient en mode d'urgence, là. Mais je peux vous garantir, parce que j'y connais quand même, j'ai des collègues que je connais bien en Australie, ils n'auraient pas laissé M. Dussault et son équipe attraper des koalas s'il n'y avait pas été en temps de crise. Là. Okay? Alors, nous autres, on n'est pas en temps de crise ici. Là. Mm. Alors, et puis, les cervidés, c'est pas des koalas. Ça va plus vite, c'est plus gros. Ça a une sensibilité qui est différente. Mm-hmm. Alors, il faut avoir une équipe qui connaît ça. Monsieur Dussault, là, dans un monde idéal, il devrait aller travailler avec ceux qui font ça, là, pour développer son expertise. Puis là, à ce moment-là, il pourrait le faire.
OK, mais pourquoi la ville de Longueuil lui a donné le mandat?
Ben, je pense que la mairesse, après d'avoir eu des menaces de mort, a décidé, bon, ben, regarde, on va pas les abattre. Puis là, eux se sont présentés. Puis je suis qu'ils sont de bonne foi. Pas de problème avec ça, ils sont de bonne foi, mais ils ont pas, pour l'instant, puis pareil avec leur équipe de bénévoles, c'est des bonnes personnes. Ça.
Mais c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Là, M. Dussault, il dit, il y a 32 serres, puis plus on attend, il va en avoir 45 parce que les femelles vont en coucher, là. Fait que le problème va s'accentuer.
Oui. Ah oui, absolument. Regardez, au moment où on se parle, ça devient, c'est encore plus difficile d'essayer de capturer. Alors, je pense que logiquement, là, pour essayer de le faire, ça va plutôt se faire à l'automne qui s'en vient là, à ce moment-là. Puis on aurait plus à attraper. Puis au fait, après ça, il faudrait penser à une stratégie à long terme dans ce parc-là. Sinon, dans deux à trois ans...
Ça va être à recommencer. Ouais. Donc, les stériliser.
Ça fait partie des solutions. Puis c'est pas quelque chose, par contre, qui va être... on fait ça une fois, puis c'est final. Là, parce qu'oubliez pas que les... municipalités autour de Montréal ont des passages naturels qui permettent à des chevreuils d'arriver dans le parc. Donc, autrement dit, mettons qu'on stérilise
les
femelles. C'est ça. Là. Mais par contre, ça serait donc à répéter, mais ça pourrait, techniquement, là, si on veut garder des chevreuils là, puis gérer sans avoir à abattre, y a deux stratégies de stérilisation. Ça coûte cher. Mais je pense que Maître Goldwater s'est offert pour payer.
Ben oui.
Moi, je pense que ça serait jouable dans une stratégie à long terme.
Est-ce qu'on a, en conclusion, M. Vaillancourt, je suis content que vous nous ayez contacté là, pour poursuivre la conversation là-dessus. Est-ce qu'on a cette vision très urbaine de presque humaniser l'animal, là, de lui donner des qualités humaines, comme quoi tu peux échanger ou avoir une relation avec des animaux, alors que un animal, c'est un animal, puis il faut contrôler la population?
Ben, écoutez, il y a de l'anthropomorphisme, ça, c'est ouais. sûr. Ceci étant dit, effectivement, on a un contact avec ces animaux-là, puis plus on fait de la recherche sur les animaux, ben, plus on se rend compte, évidemment, que non seulement c'est des êtres sensibles et tout ça, mais ils ont des capacités de compréhension de choses et tout ça, et bon, c'est sûr que les gens développent une attache pour ces animaux-là. Ça, c'est correct, mais faut pas oublier une chose aussi, c'est pendant le moment où on se concentre sur ces 15 chevreux, cerfs de Virginie-là, il y a des millions d'animaux autour de la région de Montréal qui sont, puis certains sont en danger d'extinction et qui sont pas aussi beaux, par contre, que les chevreuils, mm-hmm. et qui sont à risque à cause que on se débarrasse d'écosystèmes où on attaque les écosystèmes en voulant, je sais pas moi, avoir sa piscine creusée. Puis,
donc, il y a une réflexion à avoir plus large de la présence des animaux en centre urbain puis en banlieue.
Oui, puis d'ailleurs, elle se fait présentement. Il y a des webinaires, il y a des réunions qui sont organisées présentement par différentes organisations qui vont parler de ça. D'ailleurs, au Québec, on a ce qu'on appelle la stratégie québécoise de la santé et le bien-être animal. C'est plusieurs organisations qui sont impliquées là-dedans et qui regardent cet aspect-là. C'est le concept d'une seule santé, hein? C'est ouais. regarder la santé humaine, la santé animale, puis la santé de l'environnement, parce que tout ça s'est pris dans un pain. Alors, okay. il faut en tenir compte.
Il faut qu'on se quitte, M. Vaillancourt, mais en conclusion, là, qu'est-ce qui va se passer, là? C'est quoi le scénario probable?
Ben, si on veut éviter d'abattre, d'euthanasier ces animaux-là, il faudra penser à avoir un protocole acceptable, genre avec des cages Stevenson, par exemple, pour les attraper plus facilement et tout ça, et déplacer possiblement un plus grand nombre ailleurs là de chevreuils, et penser à avoir une stratégie à long terme avec, par exemple, via la stérilisation, pour maintenir une population là, qui est adéquate dans ce parc-là pour le bénéfice de tout le monde.
Il faut arrêter de les nourrir?
Oui. oui. Bien, je pense que quand on va avoir établi une population acceptable, l'écosystème va être adéquat pour les nourrir. Mais effectivement, là, faut faire attention, parce que quand on nourrit ces animaux-là, c'est quand même, c'est pas naturel, et puis ça a les conséquences qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais. Et as-tu moyen de les garder dans le parc, Michel Chartrand? Parce que vraiment, je voyais les enfants triper à voir les cerfs ouais. de Virginie. Ça fait du bien à tout le monde?
Oui, bien encore une fois, il faudrait diminuer le nombre. Ça élimine pas tous les risques, parce qu'évidemment, ils sont libres d'aller là où ils veulent. Là, ils peuvent traverser les rues et tout ça. Mais essayer d'encager ce parc-là, bien bonne chance là en tant que période de taxes, ça coûterait très cher et ça te prendrait, ça serait pas beau là. On parle de quelque chose qui ferait à peu près 4 mètres de hauteur là. Je pense pas que les voisins apprécieraient beaucoup.
Je pense pas non plus. Bon, ben on va suivre le dossier. Monsieur Vaillancourt, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
Ça fait plaisir.
Merci. Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
Geneviève Peterson est avec nous. Puis, et sacrément qu'on va avoir une belle salle de bain. Quand ça va être libre, ça va être rénové. Bon.
Je te le souhaite, Benoît.
Merci. On travaille là-dessus. Mais c'est parce que les prix sont fous aussi, là.
Les prix des matériaux.
De tout, là.
Mais je le sais. Le prix de la main-d'œuvre, les matériaux. Puis les gens se sont lancés dans des rénos. Puis je les comprends parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps chez nous. Fait que là, on se dit, hey, tant qu'à passer du temps, je vais faire de mon logis un paradis, comprends-tu?
Ben oui, on va bonifier la patente, mais.
Mais les rénos, c'est une des pires choses, Benoît. Ouais. C'est une des pires choses. Moi, je suis zéro manuel. Là. Tu sais que j'ai déjà réparé une douche avec du papier collant, puis je te niaise pas, là. Mon chum est arrivé chez nous, puis il a dit, j'ai vraiment un problème avec ma douche, là. J'avais un bain sur pattes. Tu sais, avec une douche en métal, là, vraiment à l'ancienne, là, beauté dans le mur. Puis évidemment, avec les années, la vis était rendue slack en bon québécois. Donc, ça sortait du mur. Puis moi, je savais pas quoi faire. Je l'avais tapé avec du papier collant, rire de même. Je m'étais sentie invalidée.
OK. Donc, Casa t'appellera pas pour une émission.
Ben, au contraire, il devrait m'appeler parce que j'ai vraiment besoin d'aide.
Mais à chaque étape, à chaque vis, l'épisode va être long.
Non, je suis pas la meilleure.
T'avances pas vite.
C'est pas moi le castor bricoleur. Écoute, je peux te le dire.
Le PQ demande au gouvernement, il demande quoi exactement, Geneviève?
Ben, en fait, elle demande que le gouvernement Legault reconnaisse que les femmes sont davantage touchées par la pandémie. Puis c'est pas que le PQ qui demande ça. Ce sont toutes les oppositions depuis déjà quelques jours. Puis, tu sais, il y a personne qui tombe en bas de sa chaise en ce moment là, d'apprendre ça parce que depuis le début de la pandémie, il y a eu toutes sortes d'articles qui sont parus dans les journaux pour parler des inégalités souvent qui visaient plus les femmes. Il y a des groupes de pression qui sont sortis des maisons d'hébergement. T'sais, c'est une espèce de gros mélange d'organismes qui sortent pour dire, ben, tu sais, les inégalités qui existaient avant, devinez quoi, elles existent encore. Et c'est pire. Puis là, on demande à la CAQ de faire quelque chose de concret pour aider les femmes qui sont amoindries, si on veut, par la pandémie. Puis c'est des choses vraiment... c'est pour ça que ça a attiré mon attention, cet article-là, parce que dans la presse, parce que c'est des choses que moi, je pensais un peu « acquises », entre guillemets. Là, je me disais, bon, des places en garderie, OK. Attribuer des contrats publics à des femmes entrepreneurs, moi, je pensais qu'on était déjà là-dedans. Mais ça a l'air que c'est pas assez. Puis, tu sais, c'est vrai. Puis moi, je l'ai vraiment constaté, puis c'est pas un sondage léger, là, mais quand même, autour de moi, puis je sais pas, toi, ce que t'en as perçu, mais c'est vrai que pendant la pandémie, avec le télétravail, on s'est rendu compte que c'est souvent la fille qui a fait les concessions, là, c'est-à-dire de moins travailler, de prendre des congés, d'un peu tout organiser dans la maison autour du télétravail, puis de l'enseignement à distance. Puis ça va plus loin que ça. Moi, je remarque que c'est souvent la fille qui fait le choix...
La femme.
Ouais, la fille ou la femme, peu importe, là, on choisit le mot qu'on veut.
Vous n'êtes pas des filles. Non, mais...
Des personnes qui s'identifient comme femmes, t'aimes-tu mieux ça de même?
Oui.
OK. ça te fait chier, là. Joue pas avec moi.
Des femmes. Okay. Une femme, c'est une femme, là.
Exactement.
Commence pas avec ta discrimination puis tes préjugés.
Je commence pas puis je finis pas. Ouais. Donc, des femmes qui font le choix de rester à la maison, en général dans la vie, là, même hors pandémie, parce qu'il y a cette idée de sacrifier sa job pour ses enfants. Puis moi, je veux pas dire que c'est la faute des hommes, là. Ça va plus loin que ça, là. En plus, les chums ne veulent pas nécessairement ça, hein. Tu sais, ben des gars, là, qui s'étaient pognés dans un petit isoloir, là, pour leur demander, là, si eux autres, leur souhait le plus cher, c'est que leur blonde arrête de travailler pour s'occuper des enfants, je suis pas sûre que la réponse, ça serait oui tant que ça. Je suis pas certaine de ça. Mais...
Moi, je pense qu'il faut arrêter avec l'image du bonhomme des années 70.
Ouais.
Tu sais, il y a toute la gang d'intégristes religieux là, qui sont une bande à part, là, qui veulent que la bonne femme reste à la maison.
Non, mais le Québécois moyen
ou qu'elle travaille juste dans un service de garde là, il y a des enfants. Parce qu'il faudrait pas que cette femme-là côtoie d'autres hommes, mon Dieu, elle va prendre en
prof ou infirmière ou préposé aux bénéficiaires.
Ça, c'est...
Les métiers de femme de soins.
C'est ce qui est permis par le bonhomme. Ça, eux autres. Mais en général, je pense que les hommes veulent que les femmes s'accomplissent.
Mais c'est parce que c'est un petit peu déprimant d'arriver chez vous, puis tout ce que tu as à parler avec ta blonde, c'est la sorte d'RTL au thé vert, et vice-versa.
Vice-versa.
À un moment donné, c'est le fun dans un couple d'être drivé puis d'admirer l'autre. Puis je comprends aussi les femmes qui font le choix de rester avec leurs enfants un certain temps. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà flirté avec cette idée-là pour vrai. Là. Puis j'ai beaucoup d'amis qui ont des études supérieures qui sont restées avec leurs enfants, mais je trouve que c'est un risque absolument incroyable. Tu te places en situation de dépendance économique.
C'est ça.
Puis cette pensée selon laquelle tu vas rattraper ton manque à gagner, c'est pas vrai que si tu passes 5-6 ans hors du marché du travail, à part si c'est une profession vraiment très, très précise, là, mais non, ouais, je sais pas, moi, t'es dentiste ou tu vas être encore capable de pratiquer, quoique il y a du perfectionnement, il y a des affaires, mais tu sais, si tu fais un métier où tu as besoin de construire une carrière, d'évoluer, tu viens de faire un write-off sur 5-6 ans de ta vie. Si tu te tannes, je parle même pas de si le bonhomme, justement, se tanne, mais mettons que toi, tu te tannes. Mettons que toi, tu l'aimes plus, ça te tente pas. Là.
Ça se peut-tu?
Qu'est-ce que tu fais? T'es poigné là?
T'es poigné. Surtout si t'es pas marié.
Ben oui, puis là, attends, là, on va en reparler parce qu'on est dans, on va avoir une refonte du droit conjugal.
Ouais, on va en parler à midi.
Mais c'est encore ça qui est valorisé. Socialement, la valeur suprême d'une femme, c'est d'être mère. Puis si tu veux travailler, puis si tu le dis, puis si tu dis, moi, je suis ambitieuse, puis mes enfants, oui, c'est une chose, mais mon travail est très important. Pour moi, ça nous est souvent reproché.
Mais il y a des femmes qui ont le goût aussi de vivre ça avec les enfants.
Et elles ont
avant.
Le droit.
Ben, je pense que oui.
Mais faut que tu te backes. Faut pas que tu te fies ce registre qui dit que ça va être correct, puis si vous divorcez, il va donner la moitié. Fais des papiers.
Oui, fais des papiers, puis assure-toi que tout.
Non, puis rattrape-le ton manque à gagner. Si c'est ça, puis si c'est vrai que c'est une décision de couple, puis si c'est vrai que tu es prête à rester là, puis que lui est prêt à pallier, mais ça vaut combien par année, ça?
Puis c'est vrai que de retarder, tu sais, puis de retarder ton retour au travail, là, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a du monde qui passe devant toi.
Mais oui!
Tu sais, puis il y a des jeunes qui n'ont qui pas d'enfants, eux autres sont prêts à faire 12 heures par jour. Toi, faut aller chercher ou le. Il y a bien les hommes qui vont chercher les enfants au service de garde aussi.
Il y en a bien, puis aussi, les enfants t'empêchent de faire certains moves de carrière. Mettons, moi, j'ai 3 enfants. C'est sûr que demain matin, je peux pas faire. Moi, je suis tannée, je me lève, je m'en vais.
M'en vais à Paris.
Tu sais, faut que tu penses à ça, faut que tu fasses une planification. Fait que ça peut t'empêcher de saisir des opportunités. Ça, c'est pour quand ça va bien. Mais pour les femmes pour qui ça va pas bien, les femmes victimes de violences conjugales pendant la pandémie, les femmes qui sont dans précarité, dans pauvreté, c'est pire. Ils sont pognés là. Les maisons d'hébergement ont demandé avec la Frapprue cette semaine de faire des logements sociaux. On a eu 3 meurtres conjugaux juste le mois passé. Isabelle Charret qui a dit « Je t'inquiète ». OK, ouais, t'es inquiète, mais vas-tu faire de quoi? Moi, j'ai posé
Charret,
la question, puis on n'a pas répondu encore.
Isabelle Charret a accordé la moitié de ce que
demandait, qu'elle avait promis, ben oui.
De ce que demandaient les maisons pour les femmes, les maisons d'hébergement, les femmes qui vivent la violence, la moitié. Puis ces femmes-là ont des études supérieures, sont payées 20$ à l'heure, ont un horaire de marde, travaillent dans un milieu de marde, difficile à gérer.
Mais tu le sais, Manon Molastès, tu l'as fait souvent, puis elle vient à mon émission, puis elle nous dit toujours, écoutez, on a de l'argent, puis ils nous en ont donné, mais pas pour qu'on crée des nouvelles ressources. On a à peine assez d'argent pour maintenir ce qu'on a à flot, et ce qu'on a, c'est pas suffisant.
Pas le gros luxe. J'ai visité des maisons, là.
Oui.
C'est pas le gros luxe, là. C'est pas, y a pas une PlayStation dans chaque appartement.
14 mesures qui ont été proposées le 3 décembre, c'est rendu où? Moi, je leur ai posé la question. Probablement que c'est rendu nulle part parce qu'ils ne me répondent pas. Ils veulent pas.
Probablement. Qu'est-ce que tu fais à 13h, toi?
Eh bien, je vais revenir. Toi, tu vas parler de la refonte du droit matrimonial, cet article-là, mais il faut s'occuper de la question des conjoints de fait aussi. Parce qu'au Québec, on le sait, là, 60 % des couples sont en union libre. En Ontario, ils ont passé des lois assez intenses. Je pense pas qu'on devrait aller là parce que ça donne toutes sortes d'autres problèmes. C'est-à-dire que les conjoints de fait, là-bas, c'est quasiment pire que si tu es marié. Là. Mais ici, il va falloir faire quelque chose parce que, comme je te dis, on se ramasse dans la précarité. Ça, puis dit son nom de la liste de dénonciation. On joue avec le concept d'anonymat. Un juge a dit non, ces deux femmes-là qui ont parti cette liste-là, non seulement il faut qu'elles soient nommées, mais il faut que les personnes qui ont dénoncé le soient aussi. Jean-François Marquis qui poursuit les autrices de cette liste-là. Ça pose toutes sortes de questions.
Très bien. On t'écoute, Mme Peterson. Merci. À demain.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Alain Pronkin est avec nous. Il aime parler et il connaît les religions. Alain, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, alors, on va y aller tout de suite pour ne pas perdre de temps parce que tu veux nous parler d'abord du pape François.
Oui. La première nouvelle, on lui a posé la question, comment est-ce qu'il imaginait sa mort? Et comment est-ce qu'il combattait les névroses? Ça va bien pour un pape.
Ça, moi, ouais.
Oui. C'est parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Nelson Castro qui a décidé d'écrire un livre sur la santé des papes. On sait qu'il y a des papes qui sont morts, je pense, d'infarctus, d'autres qui sont morts par des cancers. Et lui, il s'intéresse à leur santé. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va, y aller un petit peu simplement. Le pape François, lui, il a eu, au niveau des problèmes de santé, il a eu 2 blessures principales. Une au bas du corps, qui est ses sciatiques, puis une au haut du corps, parce que semble-t-il qu'il y a eu des cataractes. Il a été opéré en 2018. On sait ça. On sait qu'il y a eu des problèmes de poumons. Mais
toi, tu parles comme un coach du Canadien de Montréal.
Oui, parce que tu vois, pour les papes, on ne gêne pas pour parler des cataractes du sciatique.
Ouais,
c'est pas pour un joueur de hockey.
Oui, c'est ça.
J'espère qu'il n'y en a pas trop qui ont des cataractes au hockey. Là. Ça serait
Vite. Ça serait... Non, ils sont trop jeunes pour avoir ça.
Oui, mais ça, c'est de la façon qu'il lance au but des fois, là, ben, pour poser des questions.
Si on prend les yeux crachent. Alors, ça, là, qu'est-ce qui arrive avec le pape, là?
Oui, ben, les névroses, parce qu'on se pose la question, il y a eu des névroses. Il dit oui, parce que il a consulté à l'époque au niveau d'un psychiatre qui lui donnait des conseils parce qu'il avait beaucoup de difficultés à gérer le stress et la peur parce qu'il était dans une dictature où il fallait qu'il sauve des vies humaines, où il fallait qu'il aille rencontrer les gens, qu'il essaie de sortir des pays, des convaincre qu'ils pouvaient pas rester dans le pays parce qu'ils pouvaient se faire tuer. Et ça a été extrêmement dur pour lui à ce moment-là d'être pris avec aider ces gens-là qui vont peut-être être tué par le régime militaire puis être pris d'autre part à discuter avec le régime militaire. Fait que là, il a combattu ses névroses, puis on lui disait, mais écoute, comment tu dois gérer tes craintes, gérer tes peurs? Au niveau de sa mort, il dit qu'il n'a pas peur de mourir, et là, il nous dit la chose suivante, et ça, ça a surpris beaucoup de gens, mais il ne faut pas oublier, c'est en 2019. Il a dit, moi, il dit, je vais mourir ou je vais être pape encore en fonction. Ça veut dire que ça, il imaginait peut-être un infarctus, ou je vais être pape émérite comme Benoît XVI, puis je vais être retiré, puis je vais mourir tranquillement de ma belle mort. Mais ce qui a surpris, c'est pas qu'ils disent qu'il va finir comme Benoît XVI démissionné, c'est qu'il dit « je ne retournerai pas en Argentine ». Pourtant, il a gardé son passeport, l'Argentin. Pourtant, il a continué de payer ses billets de saison. Puis pourtant, maintenant, il prend pour deux équipes rivales là, en Argentine. c'est comme si tu prends les Canadiens et les Nordiques en même temps. Et là, les gens sont restés surpris. Ils disent, ça se peut pas qu'il reste à Rome. C'est pas sa place Rome. Il va s'ennuyer à Rome. Mais c'est ce qu'il a déclaré. Et ça sort dans un livre. Ben, le livre est sorti hier là, de Nelson Castro sur la santé des papes. C'est un livre qui va être intéressant, qu'il va falloir que je me procure.
Bon, des nouvelles du cardinal Lacroix.
Oui, le cardinal Lacroix était pas tellement content, mais il l'a fait d'une façon diplomatique, comme on le connaît. C'est qu'il dit, je ne comprends pas. Il dit, nous, on est pris avec 10 personnes maximum dans nos églises et 25 lors de funérailles. Et on arrive dans des salles de cinéma, on va à 250 personnes. Il dit, c'est quoi la norme? Pense toujours à l'église Notre-Dame ou la basilique Notre-Dame. C'est immense, 10 personnes ou 25. Là, il a contesté. Je sais qu'à Montréal, ils ont fait des pétitions. Il y a eu 7300 personnes qui ont signé des pétitions pour contester cette décision-là. Puis dire, écoutez, on peut-tu monter comme une salle de cinéma à 250 personnes? Surtout à Québec, où je pense qu'on commence à même critiquer le fait qu'on est en zone rouge. Moi, la seule chose que je me souviens, Benoît, mais toi, t'es beaucoup trop jeune pour te souvenir de ça. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait des films dans les sous-sols d'église. Fait qu'on a juste à présenter des films dans les sous-sols d'église.
Ben oui.
On pourrait aller chercher 250 personnes.
Mais j'en ai vu, moi, des films au sous-sol d'église.
J'étais jeune, Benoît, là. J'étais au primaire, moi, dans ce temps-là.
Sais-tu ce qu'il nous avait présenté? Alfred Hitchcock, un de ses derniers films en 1972, 13, 14. Là.
OK.
Puis il y avait des seins nus dans le film.
Ah, mon Dieu. Non, ça nous, on n'avait pas ça. Moi, j'avais John Wayne. Tous les films de John Wayne.
Pas de
ça, on
nus.
L'a eu avec les cowboys, les Indiens. Là, c'est des films qu'on peut pas passer aujourd'hui,
non
mais
plus.
Qu'on nous montrait dans le sous-sol d'église.
Ouais, je pense qu'ils sont plus censurés, ces films-là, que celui que j'ai vu.
Oui, d'après moi, oui.
Bon, c'est tout.
Oublions pas, Benoît, le 4 avril, c'est Pâques. Je vois mal les églises pour Pâques être pris avec 10 personnes dans l'église.
Ouais, ça va être tranquille, hein?
Oui.
En Suisse?
Oui, en Suisse, ça, c'est majeur. On sait qu'en Suisse, ils ont déjà passé un référendum pour interdire les minarets sur les mosquées. Et ça avait passé. Et là, il y a un deuxième référendum qui a lieu le dimanche 7 mars, c'est comme cette semaine, pour l'interdiction de la burqa dans tout l'espace public. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'au début, les gens étaient en faveur de cette interdiction-là à environ 56 %. Et là, c'est tombé à 49 %.
Ah ouais.
Le gouvernement a fait une offensive en disant, écoutez, on va l'interdire pour avoir des services publics. Ça veut dire, vous vous présentez à l'hôpital, il va falloir vous montrer votre visage, vous ne pouvez pas y aller en burqa. Ouais, on parle d'environ 30 femmes pour l'ensemble de la Suisse. Mais le référendum est là. Et ce qu'on sait des gens, parce que même si tu n'habites pas en Suisse, tu as le droit de voter si, évidemment, tu es un Suisse. Et là, c'est glissé, il était à 74 % pour cette initiative-là citoyenne, et là, c'est descendu à 58 %. Et là, on se pose la question, est-ce que le gouvernement va gagner le pari? Est-ce qu'on va dire, ben écoutez, pour la burqa, on va juste l'interdire si les gens demandent un service public?
Mais
c'est gros, parce que c'est quand même une question importante, puis c'est la réaction des gens dans un référendum populaire.
On va pas recommencer avec ça, là, la burqa. C'est bon.
Ben, ils sont dedans en Suisse, Benoît. C'est le 7.
Ouais. Benoît XVI juge dangereux le voyage du pape François en Irak.
Oui, on sait que vendredi, le pape François s'en va en Irak. Et le Benoît XVI, c'est très, très, très rare qu'il donne des interviews. Et là, il en a donné une. Il dit, moi, je trouve ça dangereux qu'il aille en Irak. C'est la première fois qu'un pape va se rendre en Irak. Mmh. Et en plus, Benoît XVI a rajouté, il n'y a qu'un seul pape. Je ne suis plus pape, même si je m'habille en blanc comme le pape. C'est François le pape. Fait qu'il est revenu, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, est-ce qu'il peut être pape? Bon, il dit, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que François, le premier problème du voyage de François en Irak, la sécurité. Parce que Daesh fait encore des incursions, il y a des explosions un peu partout, donc on est dans des problèmes de sécurité. Donc c'est le premier problème qu'on a vendredi. L'autre chose, c'est que le pape, lui, on le sait, il voyage toujours dans les pays où ça va mal. Dans les pays que la guerre, dans les pays que la discrimination importante. Et là, en Irak, on l'attend parce que, imagine, à Bagdad, la population des chrétiens est passée de 750 000 chrétiens en 2003 à 75 000. Et là, il va sûrement faire des discours au niveau de la pastorale pour dire, écoutez, on va garder la foi des chrétiens qui sont toujours en Irak, mais ça va très mal en Irak au niveau des chrétiens,
ouais,
parce que le pays se vide.
On n'en parle pas beaucoup de ça, hein?
Pas beaucoup.
Non.
Mais imagine, de 750 000 à 75 000.
Ouais. Moi, puis ils sont allés où?
Oh mon Dieu, ils sont allés un peu partout. Ils sont allés en Europe, ils sont allés dans des pays beaucoup plus accueillants.
C'est ça, hein?
Mais...
Ils sont pas allés en Égypte, là, où il y a des islamistes qui en ont assassiné à la sortie d'église.
Oui, ça, on le sait. Puis souvent, malheureusement, ça arrive dans la période de Pâques.
Exactement.
Et très bientôt.
Ce qui va recommencer. Écoute, il faut deux, trois nouvelles encore, même pas une ou deux. Alain, j'aimerais ça que tu reviennes sur la conférence du Conservative Political Action Conference qui a eu lieu en fin de semaine.
Oui, vendredi dernier, parce qu'on sait que Donald Trump a donné un discours, mais il y a aussi Donald Trump Jr. qui a donné un discours, ça c'est le vendredi. Mais juste avant lui, il y a eu un orateur qui s'appelle Hiraoki J. Aiba. J'espère que je le prononce bien.
Ouais.
Lui, il est un des leaders d'un parti conservateur japonais. Et il a été dans l'organisation de ce qu'on appelle une religion qui s'appelle Happy Science, science heureuse. Et eux, évidemment, c'est une secte religieuse qui avait un remède miracle contre la COVID-19 et ça coûtait 400 $ pour l'avoir. Mais cette religion-là a été fondée par un ancien de Wall Street qui s'appelle Ryuho Akawa, qui lui disait qu'il était une réincarnation de Bouddha, qui était la suite des Elohim. En veux-tu, en v'là, le syncrétisme ou la synthèse de toutes les religions était sur lui. Tout était là-dedans.
Ouais.
Ça a fait de l'argent. Il roulait jusqu'à 45 millions par année de revenus. Wow. Là. Et ils ont fondé un parti politique de droite au Japon, qui n'a pas encore fait élire de député, mais qui est reconnu. Et le travail de Hiraoki Aiba, c'est de se coller à tout ce qui est conservateur et donner des discours pour montrer l'importance de la droite japonaise. Et il le fait à cette fameuse convention-là du Conservative Political Action Conference de vendredi où il y avait M. Trump. Et lui, il a parlé juste avant Trump Jr. Mais il n'y a aucun journal qui a fait ressortir ça. Moi, je lis le livre, j'ai dit, je pense que ce serait important de voir est-ce qu'on prend n'importe qui pour aller faire des discours dans ces conférences-là. Parce que quand même, le gars, son organisation, on va vous guérir de la COVID, puis ça coûte 400 $.
Ah oui.
Oui, c'est vraiment un problème
c'est pas
là,
cher.
De cette religion-là. Mais lui, il essaye, d'après moi, de dire, écoute, moi, je suis plus la branche politique, mais il faut toujours voir au Japon, on a souvent eu ça, branche politique et religion de l'autre côté. On l'a vu dans différentes sectes qu'il y avait au Japon, parce qu'on veut toujours contrôler une politique.
OK, puis la dernière, la Convention baptiste du Sud, toujours aux États-Unis.
Aux États-Unis, bien là, on vient de perdre des joueurs, on commence à exclure des églises, où là, il y avait deux églises qui ont été exclues, parce que la Convention baptiste, c'est une des plus importantes aux États-Unis, c'est à 14 millions de personnes qui sont membres de ça, de ce groupe chrétien-là. On exclut deux églises, parce que il y avait des passés de pédophiles effrayant. Dans un cas, je pense qu'il y avait au-delà de 100 agressions sur des jeunes. Et l'autre, c'est qu'on dit qu'ils sont trop, deux autres églises qui sont trop conciliants avec les LGBT. On dit non. Ils disent parce que chez nous, les chrétiens doivent s'opposer au racisme, à l'avarice, l'égoïsme, le vice, toutes les formes d'immoralité sexuelle, telles l'adultère, l'homosexualité et la pornographie. Et là, il y en a deux qui font, qui permettent aux couples LGBT de s'affirmer et de prendre part dans les différentes églises. Et là, ces deux églises-là ont été exclues du groupement, qui est un groupement majeur, la Convention baptiste. C'est gros, là. Je pense que c'est le plus gros après les chrétiens catholiques.
Bon, c'est toujours, encourageant d'entendre ça. Loïc, Alain Pronkin.
Moi, c'est Alain.
Ouais, non, je sais, Loïc était là tantôt, puis il s'en vient tantôt. Bon, Alain Pronkin, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Oui, et ne sois pas inquiet, il va y avoir plein d'autres nouvelles, Benoît.
Ah, j'en doute pas. Salut, merci.
Merci.
Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Actualité.
Alexandre Dubé.
Alexandre Dubé est avec nous, on vient de le dire, on vient de l'annoncer, on va le répéter parce que c'est important. M. Dubé, bonjour.
M. Dutrisac, bonjour.
Bon, alors, bilan COVID du jour, ça a l'air de quoi, Alex?
588 cas sur 18 789 tests, c'est encourageant. C'est encourageant aussi au niveau des décès où on observe une tendance à la baisse, 8 décès supplémentaires. Par contre, le drapeau rouge que je vois, c'est au niveau des hospitalisations. Depuis le début de la semaine, il y a une tendance à la hausse, 16 de plus pour un total de 628. Petite diminution aux soins intensifs d'une personne pour un total de 121 hospitalisations aux soins intensifs. Par contre, tiens-toi bien, lâche-toi là.
Ouais, 16
458 doses de vaccins administrés. Et ça, de mémoire, là, c'est un sommet depuis le début, là, depuis qu'on a commencé cette campagne de vaccination-là.
Ouais.
Je jette toujours un petit coup d'œil pour les variants aussi, Benoît. On sait que c'est principalement problématique pour Montréal et ma région natale, l'Abitibi-Témiscamingue. Selon l'INSPQ, 137 cas confirmés. Mais il y en aura probablement d'autres parce que 1095 cas présomptifs, donc en criblage, sont toujours en attente de confirmation.
Bon, c'est des bonnes nouvelles, grosso modo, mais faut rester sur cette voie-là. 16 000 vaccins, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas énorme, là.
Ouais, c'est sûr que, tu sais, on a une vitesse de croisière qui peut aller, en termes de capacité, là, au Québec, de 250 000 doses de vaccins par semaine.
Ouais, on n'est pas là, hein?
On n'en est pas là encore. Tu sais, les cargaisons entrent de plus en plus. On a eu un bon creux de vague il y a quelques semaines. Par contre, là, ça rentre davantage. Et aujourd'hui, la vaccination va être encore le thème du jour. Parce qu'à 13h cet après-midi, point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé. Le directeur national de la campagne de vaccination aussi, Daniel Paré, sera là, et le docteur Horacio Arruda. Essentiellement, ce qu'on va annoncer, c'est que dès le 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir administrer le vaccin développé par Moderna. Alors, dans deux semaines, la vaccination contre la COVID dans une cinquantaine de pharmacies va se déployer d'abord sur l'île de Montréal dans le cadre d'un projet pilote, et par la suite, les pharmacies de d'autres régions vont pouvoir, elles aussi, emboîter le pas et administrer les vaccins. Le vaccin de Moderna, c'est important de le spécifier, c'est lui qu'on a retenu parce qu'il n'y a pas besoin d'être entreposé à des températures extrêmement froides, là, comme c'est le cas pour celui de Pfizer. Par contre, Pfizer, on a quand même diminué le degré, là. De quelle façon on va pouvoir prendre rendez-vous? Encore une fois, c'est via la plateforme Clic Santé. Et par cette façon de faire, Québec espère un peu rejoindre, Benoît, les personnes plus vulnérables qui hésitent à se rendre dans les gros centres de vaccination. On a vu un peu, là, comment ça s'est passé. Il y a eu quelques ratés, entre autres à Montréal, où on a vu des longues files d'attente parce que bon, certains aînés sont arrivés un petit peu trop tôt à leur rendez-vous, ils sont arrivés d'avance, ils voulaient pas manquer leur chance. Alors, ça a créé des files d'attente pendant un moment.
Mais ça n'a pas d'allure. Le stade olympique, c'est une idée, vraiment, c'est tout croche. Tu sais, il n'y a pas de place pour s'asseoir. C'est des personnes âgées. Il faut qu'ils apportent leur chaise, faut-tu qu'ils apportent leur seringue aussi?
C'est rendu un tailgate, Benoît, faut que tu amènes ta chaise.
Non, je comprends, mais au moins tu t'assois puis quelqu'un te fait un lunch. Là, ils sont en ligne, ils attendent en ligne 45 minutes, une heure et demie, puis ils ont 85 ans, puis ils ont mal aux jambes, puis là, je comprends pas qu'il n'y ait pas prévu des chaises, qu'il n'y ait pas prévu un système où, tu sais, tu joues à chaise musicale pendant que tu avances, tu sais, une chaise puis une autre chaise, puis non, mais, tu sais, quelque chose, mais là, puis c'est grand, le stade olympique, c'est vide, le stade olympique, là, tu sais, entre le stationnement puis les endroits de vaccination, c'est un bout, là, c'est comme 700 mètres. Fait que là, tu dis, y a-tu quelqu'un qui a pensé qu'on s'adressait aux personnes âgées? Je trouve ça... L'autre affaire, j'aimerais ça que Santé Canada engage un porte-parole.
Ah oui?
Ben, c'est parce que je sais pas si t'as parlé à quelqu'un de Santé Canada récemment, non. Toi.
Ça fait des années, moi, que j'ai pas réussi, toi. Mais toi, non. T'es plus big que moi, t'es plus pesant que moi.
Malgré ma biguiture, malgré ça, c'est impossible de parler à Santé Canada. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils attendent, là. Le FDA a accepté, a approuvé Johnson & Johnson. Mm-hmm. Qu'est-ce que Santé Canada attend pour l'approuver aussi? Parce que là, les Américains et nous autres, ils sont peut-être plus gros, mais on se ressemble pas mal, tu sais.
Qu'est-ce que Santé Canada a vu que la FDA n'a pas vu?
Exactement. Exactement, tu sais. Fait que là, Santé Canada, peux-tu se grouiller le derrière, engager un porte-parole, procéder, puis permettre à la distribution du vaccin Johnson & Johnson?
Ouais, ça permettrait d'accélérer aussi, c'est clair. Mais juste un petit mot pour compléter la vaccination. Tu parlais du stade olympique. Là, la direction a fait savoir qu'on allait augmenter, entre autres, le nombre de fauteuils roulants disponibles.
Bon.
Et parallèlement.
Il y en avait 50, hein?
Ouais, ben, c'est ça. Oui, alors, c'est nettement pas suffisant. On sait qu'à Montréal, c'est 70 ans et plus. Mais je veux juste apporter à ton attention un point qui est quand même important. On sait à quel point l'étalement urbain est important. T'sais, là, c'est correct, on concentre nos efforts sur l'île de Montréal. Mais faut pas oublier le Grand Montréal. T'sais, partie de la Montérégie, ouais. La Naudière, ouais. Les Laurentides. Il ouais. Y a un paquet de gens là, qui vont travailler à Montréal, qui reviennent dans les régions. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir, moi, à partir de quel moment on va élargir également aux 70 ans et plus, notamment pour ce rayon-là du Grand Montréal.
Ouais. Puis aussi les travailleurs là, qui circulent, parce que ils circulent. T'sais, à un moment donné, je veux bien là, qu'on aille partout puis qu'on vaccine les prisonniers. C'est bien important, les prisonniers, pas les gardiens de prison, les prisonniers. OK, mais les travailleurs là, qui circulent, je sais pas. On va voir. Mais approuver les vaccins, puis on va vacciner tout le monde. Comme ça, tout le monde va y avoir droit, puis on fera pas de discrimination.
Tu sais, Benoît, qu'il y a des employés du réseau de la santé qui ont toujours pas leur deuxième dose.
Ben non, mais les prisonniers l'ont eu. Ça, c'est important. Les problèmes avec la quarantaine à l'hôtel.
Ouais, un petit mot là-dessus. Il y a des voyageurs qui ont rapporté un manque de nourriture. Le fédéral dit là, chercher des solutions en ce moment. Je sais pas si tu as peut-être vu passer ces images-là. Ça a été tourné dans un hôtel de Toronto. On voit les voyageurs qui sont pas contents, qui dénoncent le fait qu'ils n'ont pas accès à de l'eau, à de la nourriture. Il y a une femme qui a dit que sa sœur n'a rien eu à manger pendant à peu près 24 heures. Et le coût du repas fait jaser aussi. Il y a un homme qui s'est plaint d'avoir payé à peu près 47$ pour un mets assez simple composé de chili, de riz et d'une salade ainsi qu'une boisson gazeuse.
Wow.
Alors, 47$ pour ça. On espère que c'était nourrissant et soutenant. Et ça, ces problèmes de nourriture-là, ça vient s'ajouter aux problèmes de réservation, aux problèmes de sécurité également. C'est épouvantable. Je veux dire, il y a des gens qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Alors, le bureau de la ministre de la Santé dit être au courant des plaintes, de travailler avec les hôteliers pour trouver des solutions. Mais la question derrière tout ça, c'est qu'on a mis quand même un mois entre l'annonce de ces mesures-là et la mise en place de tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce mois-là, Benoît?
Ben, ça, ouais, c'est ça. C'est Trudeau qui prend des décisions, puis c'est aux autres à gérer les décisions de Justin Trudeau. Là, avant qu'on se quitte, Alexandre, un mot sur ce qui s'est passé à Sainte-Sophie.
Ah, vraiment une histoire qui est toujours en développement, d'une énorme tristesse. Il y a une femme de 60 ans qui a été tuée, une autre de 28 ans qui repose toujours dans un état critique ce midi, alors qu'elle a été victime d'une tentative de meurtre. C'est arrivé hier soir à Sainte-Sophie dans les Laurentides. Il était à peu près 21h15 quand les policiers ont été appelés à se rendre là, à cette résidence de la rue Samson. Et les deux ont été transportés d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, la dame de 60 ans est décédée. Les deux victimes sont membres d'une même famille. Maintenant, l'auteur présumé de ces deux attaques-là, c'est un gars de 33 ans qui aurait pris la fuite dans les instants qui ont suivi ces gestes épouvantables-là et quelques minutes plus tard a provoqué une collision frontale sur la rue Bélanger à Saint-Jérôme avec un autre véhicule. Le gars a été gravement blessé, transporté à l'hôpital où il va être rencontré par les enquêteurs pour meurtre et tentative de meurtre. L'autre automobiliste impliqué dans cet accident-là, lui, a subi des blessures, mais qui ne mettent pas sa vie en danger, heureusement, la SQ qui est sur cette enquête-là.
Très bien. Monsieur Dubé, merci. On se refait ça demain.
À demain, Benoît.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Alexandre Dubé est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado, Alexandre Dubé. Des entrevues de fond avec les acteurs de l'actualité. Cube Radio.
Du Trizac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, Nathalie Roy, ministre du c'est quoi de la culture, qui oui, vient de ça. Perdre un allié.
Oui, c'est à la suite. Ben, en fait, c'est son chef de cabinet. C'est à la suite d'une controverse concernant les intérêts de M. Sandy Boutin, qui était chef de cabinet, donc dans une maison de disques. Donc, il était chef de cabinet au ministère de la Culture, puis en même temps, patron d'une maison de disques. Il n'avait pas été obligé de mettre ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. C'est vrai qu'il avait le droit, puis il faut le dire, là, avec le bureau d'enquête qui avait mené l'enquête, Alexandre Robillard, pour être plus précis, il avait été très, très transparent. Il avait donné les entrevues, tout ça. Mais en même temps, sa situation était difficile. Et il y a même des experts en éthique et en gouvernance qui avaient jugé que vraiment M. Boutin, là, il était dans une situation extrêmement délicate. Et on peut comprendre, là, en plus qu'il avait sa maison de disque avait obtenu des subsides, hein, des subventions. Donc, et ça avait cru depuis que la CAQ était au pouvoir.
C'est quoi la différence entre ça puis David Wissel, qui avait investi dans une compagnie de transport, je pense, puis...
Ben, lui, il était, ABC Rive-Nord, qui faisait de l'asphaltage, puis le gouvernement, là, l'État, donnait beaucoup de contrats à ABC Rive-Nord.
Ben, quand... la grosse différence, c'est que Sandy Boutin n'est pas élu, puis l'autre était élu.
Alors voilà,
ça s'applique,
ben oui,
pas. Ça s'applique pas aux non-élus, là. C'est ça la grosse différence.
D'ailleurs, M. Boutin, il conserve un emploi dans l'appareil politique. Là, il va devenir chef de cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Bon. Mais vu que c'est au ministère de la Culture, Benoît, puis vu qu'ici, à Dutrisac, on est plein de suggestions, puis vu que ça touche le monde de la chanson, j'ai pensé à une chanson célèbre que Mme Roy pourrait chanter à M. Sandy Boutin. Mais évidemment, après l'avoir traduit, on peut écouter John Travolta dans Grease. Voilà, alors c'est ça. On connaît,
Antoine,
hein, c'est Sandy, aïe, 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 aïe. Oui.
Hey, Antoine et Benoît, je suis un peu déçu, mon oncle 101. J'en ai une meilleure pour toi, Antoine. Écoute ça.
Ah bon?
Sandy. Oh, Sandy.
Ah, OK.
Hey, c'est en français.
Oui,
c'est Jodassin en français.
Attendez-moi deux secondes. J'ai Michel Jean sur la ligne. Michel, bonjour.
Oui, salut.
Bonjour. Merci d'être avec nous, Michel. Tu es à Sainte-Sophie, puis là, il y a la situation des deux femmes, là, une qui a été trouvée morte et l'autre qui était dans un état critique. Là. Est-ce que la situation a évolué?
Oui, les policiers viennent de confirmer il y a environ 30 minutes ici, sur place, que la femme de 28 ans, elle aussi, donc, est décédée. Donc, le bilan, c'est deux morts. Ce qu'on sait, c'est que le suspect dans cette affaire-là, c'est un homme de 33 ans. Lui, il a eu un accident quelques kilomètres au sud-ouest d'ici, frappé un autre véhicule, il a été blessé, on craint pas pour sa vie selon les policiers. Et là, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que les policiers refusent de confirmer c'est quoi le lien entre la femme de 28 ans et celle de 60. C'est une maison bigénérationnelle. Et quel est le lien aussi entre l'homme de 33 ans et les deux femmes, là? Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a un lien. On sait qu'il y a un lien entre ces trois personnes-là de façon officielle.
Ouais.
Et qu'évidemment, dans le quartier ici, personne n'a vu ça venir. Les gens sont quand même assez sous le choc.
Ouais. Donc, ça, tout ça, Michel, ça reste à venir. Là. Savoir c'est quoi le lien entre le présumé agresseur et les victimes.
Oui, les policiers, tantôt, je parlais justement avec la porte-parole de la Sûreté du Québec. Elle me disait on attend de parler avec le suspect avant de dire quoi que ce soit. Donc,
ben ouais.
Clairement, là, les policiers sont en train. Les policiers, au moment où je vous parle, là, les unités d'identité judiciaire sont encore sur place, les enquêteurs sont encore ici. Alors, les policiers sont encore en train de faire le travail de base, hein, mais j'imagine qu'au cours des prochaines heures, là, on devrait être capable de préciser de façon plus précise exactement le lien entre toutes ces personnes-là.
Oui, puis on vient de parler de violence familiale, violence conjugale, encore deux femmes qui sont assassinées au Québec. Ça va pas bien. On va suivre le dossier. Michel Jean, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Un plaisir. Salut, Benoît.
Salut. C'est important d'arrêter un moment là, parce qu'on a parlé à Mme Trou tantôt, puis là tu dis vraiment, c'est comme la chasse aux femmes est ouverte, là. Ça serait les cinquièmes là, en à peine un mois.
C'est terrible, hein? Ça se multiplie. Qu'est-ce que c'est ça, ce phénomène-là? Est-ce que c'est la pandémie? Parce que là, tous les partis d'opposition font des liens entre la manière dont on traite les femmes et la pandémie. On demande plus d'attention de la part de l'État pour les femmes dans cette pandémie. Est-ce qu'il y a un lien? Donc, Caroline a peut-être...
Quand je dis on, ça exclut la personne qui parle dans le sens où plusieurs spécialistes avaient déjà anticipé justement cette augmentation de violence. Premièrement, pendant le confinement, pendant la pandémie, plusieurs femmes sont restées à la maison parce que bon, elles avaient peur, elles sentaient pas nécessairement que elles pouvaient avoir accès à des ressources. De un, de deux, veut pas si vous et moi de temps en temps on a la mèche courte, si le moindrement il y a un peu de violence, ça justifie pas, là. Je dis juste que si nous, on a la mèche courte, ben celui qui a tendance à avoir davantage la mèche courte, ben c'est tout pour être une bombe à retardement. Alors, on savait que ça allait arriver. Hein.
En même temps, on oublie vite, là, parce que je vous écoute, là, puis moi, la chasse aux femmes, là, c'est une expression que j'avais lancée quand j'étais à CKAC, puis j'animais avec Geneviève Saint-Germain le matin. Puis il y avait eu une série de meurtres de femmes comme ça. Puis là, tu disais, il va falloir que quelqu'un... Puis j'avais reçu Claude Poirier, puis on avait parlé. Puis là, tu dis, puis Claude il approuvait cette expression-là parce que c'est choquant. Puis t'as l'impression qu'à un moment donné, ça vient par série. Puis là, il y a des femmes qui se font tuer dans un contexte familial, conjugal. Puis à chaque fois, on se dit, c'est bien épouvantable, mais on prend pas les mesures pour calmer le jeu non plus, là.
Donc, d'investir massivement donc dans les maisons.
Donc, de parler aux hommes aussi.
J'aime beaucoup ton angle, Benoît. Moi, je trouve que, puis c'est tout à ton honneur de le faire, mais t'es peut-être un des rares qui porte ce message-là, en tout cas sur la place publique. Là, on connaît tous des hommes qui défendent cette idée-là, mais sur la place publique, il me semble que ça prendrait un peu de testostérone pour parler à l'autre testostérone. Moi, j'ai beau dire qu'il faut que ça arrête, le monsieur à la maison, il doit se dire que la Saint-Hilaire casse la ferme. Là, ouais. Mais quand Dutrisac parle à l'autre gars de testostérone, peut-être que ça peut avoir un poids plus percutant.
Parce que là, on voit beaucoup d'émissions pour enfants. Là. Télé-Québec est très enfant, là, très woke. Là. Mais moi, je voulais faire au Franc-Tireur une tournée des écoles secondaires avec des gars auxquels ces jeunes-là s'identifient. Puis que ces gars-là aillent les voir, là, puis qu'on les rassemble dans l'école, au gymnase, et que ces gars-là leur parlent, et que leur disent de tuer une femme, de frapper une femme, de battre une femme, il n'y a rien de viril là-dedans, il n'y a rien de masculin là-dedans. Ils n'étaient pas un héros si tu poses ces gestes-là. Puis là, ce qu'on fait, c'est toujours du gnagnan, puis des quiz, puis des niaiseries. Mais il va falloir qu'on tu sais, que les médias le prennent en charge aussi, ça. Puis une tournée d'hommes connus qui s'adressent aux gars, puis des gars, tu sais, des jeunes qui s'identifient, puis d'arrêter d'essayer de leur vendre de la camelote, puis des quiz, puis des sottises, puis de leur parler comme un être, comme un père de famille, comme un frère, comme un grand frère ou quelqu'un à qui il peut se référer. Mais non, on voit pas ça.
Dès le début du confinement, là, tu sais, François Legault en avait parlé en conférence de presse que, justement, là, on confine. Écoute, les premiers articles sortent là, le 20 mars 2020. Ouais. Donc, déjà, on était conscient que c'était un potentiel, mais... Et y avait des mesures qui avaient été annoncées déjà, mais là, ça fait longtemps, là, ça fait un an. Donc, il y a une espèce de fatigue. Est-ce que les mesures sont aussi efficaces? Déjà, à l'époque, on disait qu'il y avait quelques oublis là dans les mesures qui avaient été annoncées. Mais au moins, on y avait pensé. Là,
Mais qu'on sorte, tu sais, qu'on sorte, puis qu'on dise...
Il faut le répéter, le message aussi.
Oui, puis qu'on dise... Puis que c'est important, la sécurité des femmes, puis il n'y a aucune raison qu'elles vivent toutes sortes de violences, mais jamais, tu sais, là, on est outré, puis demain, ça va être à recommencer, puis il y en a d'autres qui vont manger des volées, ou qui vont se rattraper. Ça, c'est les cas extrêmes, celles qui meurent. Mais celles qui se réfugient parce qu'elles ont peur, sinon t'as peur.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une augmentation avec la pandémie?
Ça n'a pas d'importance s'il y en a une augmentation ou pas. La réalité demeure, puis les femmes, à chaque année, il y en a entre 10 et 14 là, qui se font tuer. Tuer! On parle pas de celles qui se ramassent à l'urgence à se faire enlever des dents parce que, tu sais, ils ont mangé une volée, là. Caroline?
Ben oui, parce qu'en fait, je le répète là, mais tu sais, on entend beaucoup de femmes là qui sortent sur la place publique et elles parlent aux femmes victimes et c'est important. Il faut absolument garder ça aussi.
Aussi.
Mais le discours de l'éducation, tu sais, comment on fait pour parler aux plus jeunes? Je veux dire, on peut pas nécessairement régler le sort de la planète aux messieurs actuellement qui sont d'un âge avancé. Je veux dire, probablement que les plis sont pris puis c'est plus
même là,
de
même
travail.
Là. Je pense qu'il y a pas d'âge pour prendre conscience de ces gestes.
Je sais, je comprends Benoît, mais je dis juste que c'est pas la même implication, c'est pas le même travail
non.
que travailler auprès d'un gars qui a 62 ans puis qui est habitué de frapper puis c'est tout ce qu'il a vu versus un gars de 17 ans à l'école
ou de 6 ans. Moi, je me souviens d'avoir accompagné Thomas, mon plus vieux, à l'école. Il commençait l'école, tu sais. Puis je disais, tu sais, les petites filles, là, ils aiment pas ça se faire tirer les cheveux. Ils aiment pas ça se faire bardasser. Ils veulent avoir du fun, là, mais se faire... Puis Thomas a toujours eu plein d'amis-filles. Parce qu'il était cool avec les filles. Il était pas têteux, il était pas mouchamarde, il était juste cool avec les filles. Puis, tu sais, le renseigner à ne pas être des matamores face aux filles, pas être des locks non plus, mais il me semble que là, on est rendu à un point où il faudrait que quelqu'un, quelque part au Québec, prenne ça en charge.
Bien, moi, je pense qu'on a un volontaire ici.
En tout cas. Juste parler d'Ottawa avant qu'on se quitte, Caro.
Ben c'est tellement banal après tout ce qu'on vient parler. Non, on peut continuer demain sur le fédéral parce que je voulais jaser d'élection. Fait que je te propose qu'on y aille demain.
Oui, OK.
C'est correct?
Oui, absolument. Si tu me le dis, moi, je t'obéis. Tu sais comment ça marche ici, hein?
Ah, en v'là un de réglé.
En v'là un qui a compris comment ça marche. C'est dans Robitaille, de ton côté, y a-t-il autre chose?
Ben, écoute, moi aussi, là, c'est pas mal léger, ce dont je voulais parler. Là. Des affaires de PQ, le PQ qui rêve de Marie-Victorin. Pourquoi Marie-Victorin? Parce qu'on sait que Catherine Fournier est intéressée à la mairie de Longueuil. Donc, elle laisserait son siège probablement rapidement, ce qui déclencherait une élection partielle. Il y en a peu d'élections partielles depuis la loi... Pardon?
Elle est obligée de quitter son siège?
Je pense que moralement, assez rapidement, oui, il faudrait qu'elle quitte son siège. Ouais.
As-tu des conseils à lui donner, Caro?
C'est que
j'en ai plein.
Je veux juste finir, c'est parce qu'au Parti québécois, on rêve que François Legault fasse ce que Jean Charest avait fait pour Pauline Marois en 2007. Quand elle s'est fait élire à la tête du parti, donc Paul Saint-Pierre Plamondon, et donc il n'y aurait pas de candidat caquiste, mais moi je prédis que M. Legault, il sera pas très enclin à laisser passer comme ça Paul Saint-Pierre Plamondon.
On va voir ça. Merci Caroline.
J'ai fait une chronique là-dessus.
Ouais, parfait, on va lire ça.
J'en parle à la haut sur la colline.
C'est beau, va-t'en chez vous. Merci. Comme
mais
ça.
Je pourrais te parler de
incontinent, sacramouille. Ah ouais, salut.
Vous écoutez
Dutrisac.
Cube Radio.
Retour de Loïc Tassé à l'émission. À l'aile gauche, cette fois, M. Tassé, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Alors, on ne parlera pas de la Chine, on va parler de l'État de New York.
Oui, parce qu'il se passe, il y a un scandale là-bas qui touche le gouverneur de l'État de New York, M. Andrew Cuomo, 63 ans, qui termine son troisième mandat, et il est accusé de harcèlement sexuel. Écoute, c'est une troisième accusation d'harcèlement sexuel qui vient de sortir contre lui. Je te donne la troisième parce que, franchement, la troisième, elle m'a l'air puritaine plus qu'autre chose. Il était à un mariage, tu sais, avec du champagne, et il a porté un toast au marié. Puis, il y a une femme qui s'est approchée de lui en lui disant « Oh, je vous remercie beaucoup pour votre toast, c'était vraiment très bien. » Alors lui, c'est la prise par la nuque, il a mis sa main derrière sa nuque, puis il a dit « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Il l'a embrassé sur la joue. Scandale! La femme n'avait pas dit oui, je veux que vous m'embrassiez. Elle le poursuit pour harcèlement sexuel.
Hein? Sur la joue?
Oui, oui, on est rendu là.
À un mariage.
Avec de l'alcool.
OK, il s'est pas frotté dessus, là.
Non. Puis il a demandé la permission, est-ce que je peux vous embrasser? Tu sais? Bon.
Ben là. Parce que là, si tu dis que ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pas une agression sexuelle?
Du harcèlement sexuel.
Du harcèlement sexuel, c'est parce que ça banalise le véritable harcèlement sexuel.
Oui, c'est très exagéré et je pense que ça vient d'un contexte puritain, d'une montée du puritanisme.
Républicain.
Oui, puis républicain, puis la religion. Ben, les républicains, ils disent pas grand-chose parce qu'ils ont un certain Donald Trump, je sais pas si t'en as entendu parler.
Non.
Qui a fait comme quelques gestes, disons, déplacés envers les femmes.
Ah oui, qui les attrapait par le...
Oui, c'est ça. On pense tous à ça.
Par le félin.
Quand il descend de l'autobus et il dit « vous l'attrapez », oui, c'est très vulgaire. Donc, c'est ça. Tu sais, donc, il se taise un peu. Mais le problème pour M. Cuomo, c'est qu'il y a deux autres plaintes qui, elles, sont un peu plus problématiques, avec deux femmes différentes. Notamment, il a demandé à une de ses employées si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés. Là, tu dis « ouais, c'est pas très adroit ». Et une autre, il l'aurait embrassée de force. Alors, Cuomo,
ça marche pas.
Non.
Non.
Ben, disons, la première remarque est c'est particulier.
Non, mais encore là, OK, moi, je joue l'avocat du diable. C'est rare je fais ça, là, mais disons que Cuomo, puis je le défends pas, là, parce que je le trouve pas très sympathique, mais disons que Cuomo, qui a une apparence de bully comme son frère qui est à CNN, pose la question, as-tu déjà eu une relation sexuelle avec un homme plus âgé, si la conversation porte là-dessus? Parce qu'entre adultes, on peut parler de sexualité, là, aux dernières nouvelles.
Oui. Puis, il a le droit de tromper sa femme, puis il a le droit de coucher avec qui il veut si c'est consentant. Puis c'est ça le problème. Et quand je te dis qu'il y a une montée du puritanisme, dans le fond, c'est ça le vrai problème derrière. Bon, on s'entend que dans une relation de bureau, c'est pas l'idéal. Et lui, il dit, mais en fait, je veux entretenir une atmosphère de travail détendue, puis que j'avais pas de mauvaises intentions. Sauf que, pense à la pauvre employée qui reçoit ça, puis qui voit que son patron veut coucher
mais
avec
ça
elle.
Dépend, ça dépend si la femme, qui a le droit de faire des jokes de cul aussi aujourd'hui, là.
Absolument.
Tu sais, elle n'a pas besoin de se promener en burqa, elle-là. Là. Ben, elle a le droit d'être sexualisée puis de faire des blagues de cul.
Une employée a le droit de coucher avec son patron aussi. Ben, c'est pas dans le code criminel que je sache.
Mais s'il y a de l'abus, c'est au criminel. Et s'il y a de la violence, c'est au criminel. Mais,
c'est ça.
Mais entre deux adultes consentants, là, si elle n'était pas consentante, il y a un problème.
Ben, c'est exactement ça.
Mais là, on a besoin de contexte à ces nouvelles-là.
C'est là que je te dis, il y a une espèce de montée du puritanisme. Et en fait, les gens qui l'attaquent, ce n'est pas des républicains tellement qui attaquent Cuomo là-dessus, c'est des démocrates. Parce que Cuomo est pas mal à droite.
Pour un démocrate.
Oui, pour un démocrate.
C'est ça.
Et en fait, il veut se présenter fort probablement. Enfin, il est pressenti pour succéder à Biden. Donc, il pourrait se présenter à l'investiture. Et à qui va-t-il faire de l'ombre? À Mme Kamala Harris. Et donc, on sent que l'aile gauche du Parti républicain, pardon, du Parti, ça existait au Parti républicain, ça n'existe même pas une aile gauche au Parti républicain. une chimère. Mais au Parti démocrate, elle est en train de placer ses pions, je pense, pour ce qui va se passer, donc, pour la succession de Biden. Et c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Et c'est pour ça que Cuomo est attaqué. Il est très aimé aux États-Unis, aux États-Unis, oui, mais surtout dans l'État de New York, ses électeurs l'aiment bien. Puis il y a un taux en ce moment d'approbation de son travail de 51%. C'est un peu diminué. C'était à 57 avant, c'est tombé à 51. Il y a eu des problèmes, entre autres, avec, si on l'accuse, tiens, c'est un autre scandale. Le nombre de victimes a été revisé à la hausse dans l'État de New York. C'est passé de 8500 à 15000. Puis là, il y a des gens qui disent « Ah, oh, comment ça se fait? Vous avez caché les chiffres? » Non, il n'a pas caché les chiffres. Au contraire, si on se souvient bien de ce qu'il disait il y a quelques mois, il implorait Washington de lui donner de l'argent, de décréter les mesures d'urgence en disant que ce qui se passait dans l'État de New York était épouvantable. S'il y avait eu ces chiffres-là, ça aurait amené de l'eau à son moulin. Donc, tu vois, c'est l'intérieur du mouvement démocrate, du Parti démocrate qui commence à fermenter. Et il fermente contre Cuomo.
Bon, il y a aussi une guerre au nord de l'Éthiopie. Ça a l'air loin de nous, mais ça a l'air assez rock'n'roll.
On en a un petit peu parlé déjà, oui, effectivement. Et c'est une guerre dans le Tigré qui veut plus d'autonomie. Et puis, bon, son ethnie avait au Tigré, les Tigréens avaient pendant près de 20 ans dominé toute la politique en Éthiopie. Ils ont été chassés de là. Il y a une guerre maintenant parce qu'ils veulent plus d'autonomie au Tigré. Mais il y a un rapport d'Amnesty International qui vient de sortir et on fait état de massacre dans la ville d'Aksum à la fin novembre, un autre massacre des fidèles dans la ville de Dejla, puis du nettoyage ethnique à Maekela. c'est des choses assez sérieuses. Et le gouvernement éthiopien répond « Oui, mais vous savez, on prend ces accusations au sérieux, mais il s'agit d'affaires internes. » Tu sais, on parlait de la Chine plus tôt aujourd'hui, ben c'est exactement les mêmes arguments que le gouvernement chinois reprend quand on dit à la Chine « Oui, mais qu'est-ce que vous faites avec les Ouïghours, là ?»« Ah, oh, ben ça, c'est de la politique interne. De quoi vous mêlez-vous? C'est notre politique interne. » Ben oui, je t'en fous. C'est de la politique interne. Mais tu sais, c'est comme dans une famille qui dit, ou peut-être des enfants qui sont une femme qui est battue, puis elle, c'est comme si le mari disait « Bon, ça vous regarde pas. Ça, c'est ouais, les quatre murs de ma maison. »
C'est des affaires internes.
C'est des affaires internes. Ouais. Ça marche pas, ça, au 21e siècle, ce genre de notion-là. Donc, le gouvernement dit qu'il fait des enquêtes, mais que les enquêtes de l'extérieur sont pas très fiables puisqu'elles sont menées de l'étranger. C'est vrai, il faut être prudent. Et c'est vrai que les forces du Tigré sont engagées dans une guerre de guérilla, puis qu'un des principaux instruments des guerres de guérilla, c'est la propagande. Mais quand même, disons que c'est guerre rassurance qu'on entend dans cette région-là du monde.
Ouais, avant qu'on se quitte, Loïc, la COVID-19 en Europe.
Et oui, oui, c'est de plus en plus chacun pour soi. Il y a des productions de plus en plus séparées, des vaccinations séparées. Déjà, la Hongrie utilise des vaccins chinois, mais la Slovaquie et la République tchèque ont commandé des vaccins russes. Donc, désolidarisation totale. En Autriche et au Danemark, on a décidé de produire des vaccins de deuxième génération, c'est-à-dire contre les variants, avec Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des goulots d'étranglement dans la production en Europe. Plus que ça, on vient officiellement hier de faire l'annonce d'un passeport vaccinal, si on en parle beaucoup ici.
Ouais.
Ben là-bas, ils vont le faire parce que les pays du Sud veulent recevoir des touristes. La France et l'Allemagne n'aiment pas beaucoup ça parce qu'ils trouvent que c'est une pratique discriminatoire et ces deux pays-là craignent qu'il y ait un précédent. Finalement, elles se rangent un peu à l'opinion de la majorité du Sud, des pays du Sud, mais c'est certain qu'on va entraver la liberté de circulation entre les pays européens et ça pose un problème. Remarque que c'est présenté exactement comme l'inverse, comme un moyen d'augmenter la fluidité des déplacements, mais c'est quand même une entrave. Donc l'Europe a beaucoup de mal à se gouverner et on le voit encore une fois à travers ce qui se passe dans les politiques sur la COVID.
Bon, et l'Autriche et le Danemark vont produire des vaccins?
Oui, avec Israël. C'est ce que je te disais, des vaccins de deuxième génération, donc contre les variants.
Okay.
Et ça, encore une fois, ils se désolidarisent, ces deux pays-là, complètement du reste de l'Europe.
Hey boy, OK. Fait que d'où le passeport vaccinal, d'où les conflits entre pays, là, qui pourra rentrer?
Ils n'arrivent pas à s'entendre à 27, ils ne sont pas arrivés, ils n'arrivent pas à bien gouverner cette entité des 27. Ça ne marche pas très bien, l'Europe des 27. L'Europe est vraiment à un moment historique de son histoire et ce n'est pas sûr que l'Union européenne perdure si longtemps que ça sous sa forme actuelle.
Très bien. Loïc Tassé, merci. On se reparle demain.
Salut. À demain.
Ciao.
Jean-Charles Lajoie.
Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
Jean-Charles Lajoie.
Le culte de la personnalité, Jean-Charles, hein, ça s'applique à tout coach du Canadien de Montréal. Il faut qu'on l'aime, lui, avant d'aimer le club.
Ben, la vérité, Benoît, là, c'est que le Canadien, c'est un ministère qui est plus exposé, plus populaire, plus assujetti à la critique à la fois que le premier ministère québécois. Tu sais, le coach du Canadien a plus de visibilité que le premier ministre François Legault. C'est ça la vraie affaire. La vraie vérité, c'est ça. Alors, si quelqu'un pense encore que le Canadien de Montréal n'est pas d'abord et avant tout une entreprise de relations publiques, ben, il croit au licorne. M'excuse-le, mais c'est ça. Tu comprends? Tout est affaire de message. Comment on va constituer le message et comment on va le faire passer? Et c'est le point de réflexion que je veux t'amener ce midi parce que je réfléchis beaucoup à mon ami Dominique Ducharme à qui je souhaite vraiment la meilleure des chances. Et en même temps, j'observe absolument tout ce qu'il dit jusqu'à maintenant dans chacun de ses points de presse avec attention. Et je retrouve le gars brillant que je connais. Il apprend vite. Il apprend à un rythme infernal. Il demeure là, à ce jour, probablement le plus grand défi de la carrière de Paul Wilson. Tu sais, c'est pas pour rien que Paul Wilson, qui était associé senior et associé principal du cabinet de relations publiques national, mm-hmm. a mis un hiatus sur son quotidien chez National pour être vice-président aux communications de groupe CH, de l'Arena des Canadiens, de l'ensemble des entreprises de Jeff Molson, mais pour lequel il passe 90-95% de son temps affecté à la couverture quotidienne du Canadien. C'est Paul Wilson qui passe le puck pendant les points de presse des coachs, directeurs généraux et joueurs. C'est dire comment il est hands-on, comme on dit dans le jargon, comment il a les deux mains dans le moteur, parce que c'est névralgique. Et dans le cas de Dominique Ducharme, ça a été un départ un peu chaotique qui a fait naître déjà une levée de boucliers sur la toile. Les gens ont renoté le fait qu'il communiquait mal, que ça ne devait pas être drôle dans le vestiaire. Il faut très mal connaître Dominique Ducharme pour affirmer une affaire de même.
Tu non, mais, non, non, attends, attends, Jean-Charles. Hey, hey, hey. Ouais. Moi, là, je l'ai regardé là, au point de presse quand il a été nommé. Sincèrement, il y avait de la misère à enfiler trois phrases de suite. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était nerveux. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais là, je me dis, c'est le nouveau gars des communications. Puis il y a de la misère à nous expliquer pourquoi, lui, il s'en vient coach du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce club-là? Puis comment il va rallumer le flambeau qui est pas mal éteint?
Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, le premier point de presse, ça compte pas, on met ça sur le compte de nervosité.
Okay.
Deuxième chose, Dominique Ducharme, quand il arrive dans la bulle de match, une bulle de match, Benoît, là, c'est quand il met le pied à l'aréna, OK, avec ses vêtements du quotidien, en mou, puis là, il regarde son trois pièces, savamment choisi, puis il dit « OK, c'est ce que je vais porter ce soir pour le match. » C'est accroché dans son bureau, il regarde le tableau, puis tout ça. Cette bulle de match-là, mettons 3-4 heures avant le match et les 2-3 heures qui suivent le match où il décante et où l'adrénaline est encore bien présente. C'est là où c'est névralgique. Dans 2-3 heures qui suivent le match, il doit s'adresser à la presse. Mais il est encore, lui, dans sa bulle de match, dans son focus de match. Alors, lui, là, il n'est pas habitué de recevoir des questions et de se faire challenger sur ce qui s'est passé. Mais là où je veux t'amener, c'est qu'il apprend à vitesse grand V. Après son premier match, incidemment de défaite à Winnipeg, il en a largué une capable, une déclaration qui est archivée par tous les médias électroniques du Québec. Là. On garde ça, puis ça va le suivre probablement tout le long de son mandat. Quand il a dit « on a craqué mentalement, puis on a craqué physiquement ». Ça, c'est une déclaration lourde de sens. Au premier point de presse suivant le premier match derrière le banc du nouveau coach. Mais, déjà, on a vu l'autre Dominique Ducharme, un gars plus modéré, plus pondéré, lorsqu'il n'est pas dans des situations d'après-match où il est primé encore. Tu y vois, là, il a les yeux globuleux qui veulent les sortir de la tête parce qu'il est encore dans sa bulle de match. Mais ça a donné deux autres bijoux intéressants. Et je veux apporter ton attention là-dessus. Quand il a dit hier, j'ai grandi ici, en aimant le Canadien, je sais exactement dans quoi je m'embarquais. Je savais qu'en devenant entraîneur-chef du Canadien, je me retrouvais du jour au lendemain avec 8 millions d'assistants derrière le banc avec moi. Ça, c'est les 8 millions de résidents du Québec. C'est une déclaration qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, premièrement. D'abord, c'est criant de vérité, mais au-delà de ça, c'est rassembleur. Il n'y a pas personne, et moi j'ai regardé les réactions sur la toile, il n'y a pas personne qui est amant du Canadien qui a entendu ça et qui ne s'est pas tout de suite senti concerné. C'est comme si Dominique Ducharme avait dit à tous les partisans de l'équipe, là, venez-vous-en avec moi, allons-y ensemble. Vous êtes tous avec nous autres contre un soir donné Toronto, puis demain soir Ottawa. Tu comprends? Alors ça, là, c'est une superbe quote. L'autre quote, c'est quand il dit « ça va vite pareil ». Moi, je suis parti sur la route, j'étais adjoint à l'entraîneur du Canadien, puis quand je suis revenu, j'avais laissé mon auto au Centre Bell. Quand je suis revenu puis je suis arrivé à mon auto, je me suis dit « hey boy, quand j'ai parké, j'étais adjoint, puis là, je déparque, puis je suis entraîneur-chef du Canadien.
Ouais. »
Alors, l'image, elle est forte, mais ça va plus loin que ça. Moi, là, quand j'ai entendu Dominique Ducharme dire ça, là, j'ai vu un gars sortir sa clé, pas une clé électronique, là, la mettre dans la serrure de son Honda Accord familial usagé de 4-5 ans d'âge. Tu comprends ce que je veux dire? L'adjoint un peu plus sous-payé, moins privilégié, le gars du peuple, qui part avec son char use, qui part son char use, puis quand il départ, il peut commencer à se magasiner une berline de luxe. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, là, c'est une image qui frappe encore une fois. ça frappe l'imaginaire et ça rallie le public à sa cause.
Mais attends, là, je passe tout ça, là, tout ce que tu racontes, là, ça n'a rien à voir avec la performance du club sur la glace.
Elle va très bien, elle. Ça, là, cette botte-là, on n'aura pas de problème avec ça. On voit déjà les effets bénéfiques. Les 60 minutes que le Canadien a joué au Jets samedi soir sont extraordinaires.
Ils ont perdu.
Le Canadien joue comme il a joué à Winnipeg. À tous les soirs, il va gagner le plus clair de ses matchs parce qu'il ne fera pas face à Connor Hellebuyck à tous les soirs. Tu comprends? Connor Hellebuyck est le gagnant du trophée Vézina en titre. Il était dans une bulle ce soir-là. Il était très difficile à battre. Tu comprends? Ce qui n'empêche pas que Dominique a fait une erreur dans la sélection du personnel, mon humble opinion, pour commencer la prolongation en 3 contre 3.
Ouais, ouais.
Je mettrais le chalet s'il y a de la prolongation ce soir. Au départ de la prolongation, tu verras ni Dano, ni Armia. Puis s'il le refait, parce qu'il ne comprend pas. Il a la tête dure, c'est tout. C'est un gars brillant.
Est-ce qu'il peut arriver du charme puis dire, moi, là, Dano, par exemple, là, ça ne marche pas. Mets-les sur le bloc, là, mets-les sur Kijiji, puis je veux quelqu'un d'autre.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des conversations constantes entre le directeur général et l'entraîneur-chef. C'est le mandat du directeur général d'appuyer son coach jusqu'à preuve du contraire. Mais quand un gars arrive en poste comme ça, c'est sûr qu'il soumet quotidiennement une liste de recommandations, une liste de réflexions et de commentaires au directeur général. Mm-hmm. Il se parle à tous les jours et il se parle longuement dans le cas d'un nouveau coach comme ça, qui plus est un coach recru. Et Marc Bergevin va tout faire pour que ça marche. Tu comprends? Il ne peut pas se tromper cette année.
Pas encore.
Et il a pris un pari audacieux. Il a nommé un coach recru qui n'est pas un média taiseux, je le répète, mais je veux juste apporter à ton attention qu'en moins d'une semaine à la barre du Canadien, moi, je vois une progression dans l'adresse à la nation quotidienne de Dominique Ducharme. Et il s'améliore.
Okay.
Preuve que c'est pas un fou, c'est pas un cave. Il comprend la game. Il sait que c'est une business de relations publiques et qu'il doit améliorer cette facette de son travail. Il prend le taureau par les cornes, il y travaille, il est à l'écoute de Paul Wilson, qui est un bon conseiller.
C'est bon.
Et ça me fait bien plaisir de voir ça parce que
Parfait.
Sur le plan des X et des O, il fait un job.
On va voir ça, on va regarder le match ce soir, en tout cas, on va l'écouter.
Carey Price devant le filet.
Avec Carey Price. Et Jean-Charles Lajoie qui est à TVA Sports à partir de 17h pour 2 heures d'analyse et de collaborateurs. Merci Jean-Charles, bonne émission ce soir. Merci à vous, à demain 10h30.
Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
Cube Radio.